Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril. Kid.
Il manie l'idée. La persuasion. Le silence. Informé. Cultivé. Rigoureux. Pour savoir et comprendre. Mario Dumont.
Bonne fin d'après-midi, bienvenue à Cube. C'est une nouvelle qui vient de nous arriver il y a quelques minutes. La députée de Québec solidaire, Manon Massé, a subi une troisième opération au cœur. Elle avait annoncé, il y a de ça même un petit bout de temps, là, devoir prendre congé pour une opération au cœur. Ensuite, une autre. Bon, entre-temps, elle avait quitté ses fonctions comme chef parlementaire, comme co-porte-parole de Québec solidaire, restait députée. Mais bon, elle avait quand même tenu à réduire un peu le rythme. Mais là, voici le message. J'ai dû avoir une troisième opération pour mon cœur. Jamais 203, comme ils disent. Elle dit, nous demande de ne pas s'inquiéter pour elle. L'opération a été très bien. Mais la suite est intéressante parce que c'est comme si elle nous avoue un peu que dans les deux opérations précédentes, elle n'a peut-être pas, pris le temps de récupération qui était suggéré là par ses médecins. Elle dit, pour revenir en plateforme, je vais me permettre un vrai temps d'arrêt et de repos, une vraie convalescence. Après la première opération, on comprend, là, selon ce qu'elle nous dit, qu'elle est revenue tout de suite au travail. Après la deuxième opération, j'ai rapidement pris le travail, mais en mode retour progressif à 4 jours/semaine. C'est pas, là, 4 jours/semaine en politique, quand le téléphone se met à sonner, puis ça, ça devient vite, 4 devient vite 6,5. Allant sur 7, tu sais. Donc, elle dit, cette fois-ci, j'écoute mon cœur parce que j'ai envie de continuer à vous écouter, vous représenter, vous accompagner. Donc, on comprend deux choses dans une, là, qu'elle va prendre une pause peut-être un peu plus significative en termes de temps de récupération, mais qu'elle n'a pas l'intention de quitter. Elle dit, elle veut prendre une pause plus longue pour revenir plus en forme, pour continuer à travailler pour la population et à servir. Donc, on lui souhaite un prompt rétablissement. Mais je vous répète la nouvelle, le Manon Massé qui vient de subir, c'est quand même pas banal, là, des chirurgies au niveau cardiaque, une troisième. J'ai pas regardé la date de la première, mais je dirais que c'est dans une période, à mon avis, de un an et demi, deux ans, une période quand même assez restreinte, malgré que le temps passe vite, là. Mais trois interventions cardiaques, donc elle dit jamais 203, mais c'est quand même trois interventions de santé quand même assez majeures.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Mario Dumont, le seul atlas dont vous avez besoin.
Il y a l'Institut économique de Montréal qui publie une étude aujourd'hui qui est en parallèle avec la politique là, du ministre du Travail Jean Boulay, le projet de loi du ministre Jean Boulay pour assouplir l'industrie de la construction, faire que des gens qui sont dans un métier bien, puissent accomplir certaines tâches, une espèce de passerelle entre les métiers, accomplir certaines tâches qui c'est pas directement dans ton métier, mais que tu aies le droit de le faire quand c'est des métiers semblables ou que c'est compatible. Le ministre voulait aussi ouvrir les bassins régionaux. Et l'Institut économique de Montréal dit dans l'état actuel de la construction au Québec, ça ne va pas assez loin. On devrait décloisonner carrément, faire disparaître un grand nombre de métiers, un grand nombre de ces métiers spécifiques qui sont d'ailleurs pour la plupart assez uniques, uniques au Québec. Ailleurs, dans les autres provinces, on a moins de métiers cloisonnés. Gabriel Giguère est analyste en politique publique à l'Institut économique de Montréal. Monsieur Giguère, bonjour.
Bonjour.
C'est peut-être la première précision qu'il faut faire quand même. Le Québec est un système assez différent de ce qui existe ailleurs.
Absolument. Le Québec se démarque par sa rigidité réglementaire à l'égard des métiers. On a 25 métiers à certification obligatoire. Quand on regarde ailleurs, on est proche de 10, bien en dessous de cela parfois. Quand on regarde notre province voisine, l'Ontario, on le sait, on aime ça se comparer à l'Ontario. Mais quand on se compare à l'Ontario sur ce secteur-là, on est à 7 métiers à certification obligatoire. Donc, on est bien plus réglementé qu'ailleurs au pays. Et ça, ben, ça peut avoir des impacts très concrets sur la productivité, notamment du secteur de la construction.
Mais quand on pose la question aux organisations syndicales, elles nous disent, là, ceux qui ont 7 ou 10 métiers versus nous qui en avons quoi, 25, ils disent, ben, c'est justement, là, les Québécois sont mieux servis, des travailleurs mieux formés, moins d'accidents de travail, une meilleure qualité de travaux. Donc, on nous dit que le public, que ce soit le gouvernement qui construit des infrastructures, des écoles, des bâtiments, ou les particuliers qui habitent des condos, on dit la population est mieux servie par des meilleurs travailleurs de la construction, mieux formés. Est-ce que vous rejetez cette idée-là?
Bien sûr, quand on regarde, là, le ministre nous expliquait que ça prenait 7 personnes pour changer des cadres de porte dans les écoles, il y a de cela quelques mois. Est-ce qu'on est mieux servi parce que c'est 7 personnes plutôt que une ou deux dans les autres provinces? Je crois absolument pas. Quand on regarde en Ontario, on fait pas des châteaux de cartes en Ontario, on fait de bons bâtiments. Et je pense que c'est une surréglementation beaucoup trop rigide au Québec. Si on prend par exemple le cas d'un peintre en bâtiment, c'est 900 heures de formation pour rejoindre, pour justement avoir ses les cartes de peintre en bâtiment, et par la suite, les tâches connexes sont très, très, très circonscrites. Le projet de loi qui a été déposé, le projet de loi 51, va permettre justement, pour le cas du cadre de porte, qu'une seule ou deux personnes puissent le changer, mais ouais. C'est parce que c'est dans une même journée. C'est une journée dans la suite de tâches, donc c'est vraiment pas un décloisonnement qui est ambitieux. C'est un projet de loi qui manque d'ambition, parce que si on veut s'assurer d'avoir les moyens de nos ambitions devant des grands défis, les grands chantiers de demain, quand on passe au logement, c'est des milliers, des centaines de milliers de logements à construire. Hydro-Québec a énormément besoin de travailleurs et travailleuses de la construction. Il faut s'assurer d'avoir le cadre réglementaire qui nous permet de ça, de répondre à ces besoins-là. Et déjà, dans l'état actuel des choses, l'Institut de la statistique du Québec nous mentionne qu'il y a plus de 7700 postes vacants. Donc, on a besoin de travailleurs et on a surtout besoin de retirer le maximum de chacun des travailleurs et des travailleuses.
Qu'est-ce que vous proposez? Parce que je comprends que vous allez un peu dans le sens du... globalement dans le sens du ministre Boulay, mais vous dites faut aller, il serait nécessaire à ce moment-ci d'avoir une réforme qui va beaucoup plus loin. Faites-nous part de vos propositions.
Absolument. Donc nous, on pense, contrairement à certains dans l'espace public, que les travailleurs québécois sont et compétents et polyvalents, et c'est très possible d'arrimer les deux. Et donc, oui, le projet de loi 51, c'est un petit pas, je dirais presque un pas de souris dans la bonne direction. Ce qu'on a besoin, c'est d'une véritable marche dans la bonne direction. Et donc, sur le plan des propositions concrètes, ce qu'on dit, c'est comme le Québec a 25 métiers à certification obligatoire, dont 13, dont le Québec est la seule province à demander celle-ci. Ça, faut bien le comprendre. 13 métiers dont le Québec est le seul à demander une certification obligatoire. Ce qu'on dit, c'est que la première étape, c'est d'abandonner cette certification obligatoire. Alors, je dis pas...
Donc déjà, on tomberait de 25 à 12 métiers en faisant disparaître ces 13-là. Première étape.
Et on resterait quand même la province avec le plus de métiers à certification obligatoire. Donc, on change pas ce classement, si je puis dire. Et donc, par la suite, il faudrait aller chercher également le nombre de métiers en Ontario. On comprend très bien que les électriciens, que les grutiers vont conserver une certification, parce qu'on parle quand même de sécurité publique quand on parle de grutiers. C'est important, mais certains métiers peuvent se faire sans certification obligatoire. Il faut s'assurer également que lorsqu'on a des charpentiers et menuisiers qui puissent faire d'autres tâches et que ce soit pas simplement dans une série de travail, dans une série où la logique est que, par exemple, le charpentier menuisier construit un cadre de porte et peut simplement peinturer le cadre de porte parce que ça s'inscrit dans la même séquence. Mais si une journée, il veut aller faire de la peinture sur un chantier, qu'il puisse le faire. Il faut s'assurer que les cloisons actuelles tombent pour qu'on puisse retirer le maximum en matière de productivité de chaque travailleur.
Je fais une rafale parce que je l'ai devant moi, votre document, là. Des métiers qui sont uniques au Québec, là. Calorifugeur, carreleur, charpentier menuisier, cimentier applicateur, couvreur, ferrailleur, mécanicien de chantier, peintre, plâtrier, poseur de revêtements souples. Mais quoi, dans les autres provinces, c'est que ces métiers-là sont englobés dans une définition plus large. Comment? Parce que il y a du monde qui pose du plâtre, il y a du monde qui font de la peinture, il y a des gens, et les couvreurs, il y a des gens qui font ce travail-là. Et comment ils s'appellent ailleurs, ou comment ils sont formés, ou...
Bien, vous pouvez vous former effectivement dans un centre de formation. Vous pouvez aussi apprendre sur le terrain. Et donc, au Québec, nous, c'est très, très tenté. C'est comme si on avait on veut protéger lorsqu'on avait des taux de chômage très élevés. Aujourd'hui, on a un bas taux de chômage. Il faut s'assurer que les travailleurs qui veulent devenir plâtriers n'ont pas besoin de passer des centaines d'heures sur les bancs d'école. Ça va apprendre sur le terrain, en faisant le travail essentiellement. Et donc, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et il sera possible pour eux de le faire. Il faut comprendre ça aujourd'hui. On est dans une dynamique où il y a une rareté de main-d'œuvre dans le secteur de la construction. Il y a des grands chantiers de demain. Et c'est en réformant le secteur, en réduisant drastiquement, là, on doit le dire, le nombre de certifications obligatoires.
Vous dites que le ministre Boulay fait un petit pas. Vous souhaiteriez en voir un beaucoup plus grand pour renforcer le secteur de la construction, pour la prospérité, mais... Je veux dire, moi, je regarde son affaire, puis c'est des manifestations, puis les syndicats de la construction sont pas de bonne humeur, puis sont allés à l'Assemblée nationale. Ben, je veux dire, si on mettait de l'avant une réforme comme la vôtre, dans la pratique, là, on parle d'un affrontement, sérieux avec les organisations syndicales de la construction, là.
Deux éléments. C'est pas à chaque année qu'on a des grandes réformes de la construction. Alors, quand elles se font, on doit en profiter. La première des choses. La deuxième des choses, effectivement, il y aura de la grogne de l'autre côté. Mais je pense aux Québécois et aux Québécoises qui auront besoin de beaucoup de travailleurs de la construction, de travailleurs polyvalents pour assurer la productivité. Encore une fois, la question du logement, là, c'est une des grandes questions à tout le moins. Et pour s'assurer de répondre à ce défi-là, il faut retirer le maximum des travailleurs et des travailleuses. Et encore une fois, on entend parfois dans l'espace public que c'est pas possible d'être polyvalent et compétent. Je pense que les Québécois, les travailleurs et travailleuses du secteur de la construction au Québec sont pas moins qualifiés qu'ailleurs. Ils sont capables d'être compétents et polyvalents.
Mais on va suivre l'évolution du dossier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci.
Gabriel Giguère, analyste en politique publique à l'Institut économique.
La fin du monde approche.
Mario Dumont.
Mais au-delà de ça, Mario, c'est le retour du schtroumpf grognon, là.
Marie, mon petit.
Il était pas de bonne humeur, puis ça allait pas comme il voulait.
La rencontre, mon petit Dumont.
Marie, bonjour. Monsieur Trudeau, aujourd'hui, qui fait une annonce en matière de garderie au lendemain d'une annonce en matière de logement. C'est un 2-2 dans les compétences des provinces, là.
Hey, 2-2, 10-10. Écoute, la liste est rendue tellement longue que c'est à se demander s'il comprend bien c'est quoi la Fédération du Canada. Tu sais, le principe de la grande fédération où on split les responsabilités fédérales en A, les provinces en A, justement, pour éviter des doublements. Mais là, c'est systématique. Ça date pas d'hier, Mario, parce que moi, je me rappelle pendant la campagne électorale de 2015, donc la première campagne électorale de Justin Trudeau, qui avait plein de ses candidats au Québec, entre autres, qui prenaient des engagements électoraux, puis on regardait ça avec mes collègues à l'Assemblée nationale, puis on se disait, non, c'est vraiment tous des engagements de compétences provinciales.
Ben, en fait, ce matin, prof de sciences politiques me disait qu'une analyse qui a été faite, rigoureuse, des engagements électoraux des libéraux, mais aussi du NPD. Il y avait deux partis fédéraux à la dernière élection, que quand tu faisais la somme de leurs engagements, il y en avait plus. Ils faisaient plus de promesses dans les compétences des provinces que dans les compétences fédérales. Donc, ils se présentent au fédéral, mais ils ont plus d'engagements dans les compétences des provinces que dans les compétences du niveau de gouvernement où ils sont candidats. Ça parle de quelque chose.
C'est pas juste une perception, parce que moi, je me rappelle le candidat dans mon comté, je me disais systématiquement, c'était des engagements, puis je me disais, c'est même pas dans ton champ de compétences, qu'est-ce que tu fais à prendre ce genre d'engagement-là? Mais une fois au pouvoir, force est de constater qu'il continue justement à avoir les deux mains dedans, tu sais. Après ça, bon, deux choses. Si je me dis, est-ce que pour la population qui entend ça, tu sais, est-ce qu'à un moment donné, tu as envie qu'il y ait un registre des loyers, tu dis au provincial, ils le font pas, au fédéral, ils le font, tu sais. Je pense que cette question-là de respect des compétences, c'est quelque chose qui est très politique. Je pense pas que dans le day-to-day des gens, c'est vraiment à ça qu'ils s'attendent. C'est peut-être un peu ça, parce que, tu sais, on s'entend que Justin Trudeau est très, très conscient qu'il est dans des compétences provinciales quand il fait ces annonces-là. C'est pas « Ah, oups, j'ai mis un pied en dehors du carré, je m'en étais pas rendu compte. » Ben non. Donc, il y a un calcul où ils doivent se dire, honnêtement, on se fera critiquer par les élus du Québec, mais on est tellement convaincu du bien fondé et du besoin auquel on répond qu'on va le faire pareil. Ouais. Mais ce que je trouve particulier dans la vie.
Oui, non, mais j'allais dire, concrètement, là, est-ce qu'il pense vraiment ça, Justin Trudeau? Parce que moi, mettons un registre des loyers. Je crois plus ou moins à ça, mais mettons que ça devait exister. Je dirais même pas que c'est le gouvernement du Québec qui devrait faire ça. Ça devrait se faire. C'est tellement quelque chose de local, de proche du plancher municipal. Des vaches. Ça devrait se faire au municipal, exactement. Mais t'as-tu pensé, mettons que le fédéral décidait de le faire, là, t'as vu le registre des armes à feu, de créer une bureaucratie qui va répertorier tous les loyers du Canada, là, des villes, des villages, du Yukon jusqu'à Terre-Neuve. Non, mais t'as-tu pensé à l'opération? Puis pas juste ça, tous les loyers, mais le but du registre, c'est les prix, là, combien ils se louaient en 2018, 19, 20, t'sais, que chaque année, t'as le prix... T'as-tu pensé au fichier, à l'opération, aux vérifications? Puis après ça, faut que tu t'enquêtes pour savoir s'ils t'ont dit la vérité, si t'as un bon chiffre. La machine bureaucratique qu'il faudrait pour montrer un fichier d'une énormité. Tu sais, tu y penses, ça donne le vertige. On veut-tu vraiment, y a-tu vraiment des contribuables au Canada qui veulent payer pour cette opération-là?
Super belle façon de diminuer, dégraisser l'État, comme on dit. Tu sais, on va engager encore plus de fonctionnaires au fédéral pour faire ce genre d'opération. Ça fait aucun sens. T'as raison, Mario. Tu sais, ça devrait être municipal. Puis encore là, est-ce que toutes les municipalités, tu sais, ça peut être à géométrie variable. Mais ce qui est particulier dans ce dossier-là, j'allais dire dans ce registre-là, mais dans ce dossier-là du logement, c'est qu'il n'y a pas si longtemps encore, Justin Trudeau disait, ben non, il n'y en a pas de crise du logement. Tu sais, lui aussi, il a évolué dans sa pensée un peu comme François Legault. Puis quand il se faisait questionner sur le logement, il disait, c'est pas à nous à faire ça. C'est aux municipalités, c'est aux provinces. Il était vraiment dans ce discours-là de c'est pas dans ma cour. Puis là, tout d'un coup, t'as Pierre Poilievre qui arrive comme un chien dans un jeu de quilles puis qui se met à changer tout son plan parce qu'il se met à parler du coût de la vie, il se met à parler de la crise du logement, des réalités qui touchent le monde. Puis là, tout d'un coup, t'as Justin Trudeau qui fait « Ah ouais, ça, on peut pas ne pas en parler. On s'en va en campagne électorale. Je vais en faire une priorité. Ce sera une mesure forte de mon budget. » Tu sais, puis là, il a changé bout pour bout. Donc, tu sais, on est vraiment dans du politique 101 pour répondre à son adversaire.
François Legault qui était en tournée ce matin en Montérégie. Et tu te demandes, est-ce que... Parce que c'était le jour où la Chambre siégeait. Remarque, il y avait aucun chef ce matin. Là. Moi, je pense que Gabriel Nadeau-Dubois était là, mais il manquait plusieurs chefs. Est-ce que François Legault essaie de faire du terrain pour fuir la période de questions ou les journalistes de l'Assemblée nationale?
Ben, tu sais, deux choses. Premièrement, le François Legault, il nous l'avait annoncé. Hein? On s'était fait dire que les jeudis seraient un peu moins à l'Assemblée nationale.
Ils ont presque tous fait ça, Jean Charest. Mon souvenir, c'est que souvent...
J'ai vu Dominique Anglade le faire. J'ai vu Philippe Dion le faire.
On profite du jeudi pour faire du terrain, ouais, c'est ça.
Le ça, c'est quand ça va pas bien, généralement. T'sais, là, tu te fais dire, ben là, on va envoyer le chef un peu plus sur le terrain, mais ils se rendent compte assez vite que finalement, l'attention médiatique, ça fonctionne un petit peu mieux quand t'es à l'Assemblée nationale, puis t'as peut-être plus intérêt à être là, finalement. Tu sais, ces stratégies-là, en tout cas, j'ai pas encore vu de chef qui l'a maintenu très longtemps dans le temps, parce qu'ils se rendent compte que la période de questions a continué de rouler le jeudi, puis la game a continué de jouer, puis, tu sais, donc, en tout cas, donc il y avait ça, mais ce que je trouvais particulier aussi, c'est que ça se fait dans le contexte où, tu sais, François Legault s'est fait questionner hier sur l'augmentation de la taille de l'État par rapport à ce qu'il avait pris comme engagement en campagne électorale d'aller dégraisser l'État et de diminuer le nombre de fonctionnaires. Puis il est allé d'un petit cabotinage pour ne pas répondre à la question en parlant du résultat et de la game du Canadien.
Mais je suis content que tu parles de ça. Je sais pas si tu te souviens quand il avait annoncé sa discipline. Puis qu'il répondrait plus. Tu sais, avant ça, à tous les jours, il répondait une couple de questions. Parce qu'il faut qu'il passe à travers les journalistes. Là. C'est un chemin entre son cabinet, l'édifice Honoré Mercier, puis le Salon Bleu. Il y a un corridor. Les gens sont habitués de le voir marcher là, puis les journalistes sont là. Fait que si tu passes à travers les journalistes, t'es mal pris. Si tu prends une face de bœuf, puis tu marches, puis tu réponds pas aux questions, t'as l'air du gars qui répond pas. Parce que les journalistes vont en poser quand même. Fait que à la TV, là, t'entends des questions, puis t'as le gars qui répond pas. Ça a l'air fou. Si tu réponds aux questions, mais là, faut que tu répondes aux questions, faut que tu t'arrêtes, tu réponds une couple de questions. Et là, il répond pas, mais il essaie de faire son sympathique quand même, qui fait des petites jokes. Là, hier, il en fait une. Il est un peu piégé, et moi, ça me ramène à ce que je disais à l'époque, que sa technique, elle était excellente. De répondre à une ou deux questions en s'en allant, puis s'arrêter, une ou deux questions, repartir à marcher. Et c'est ses réponses qui étaient mauvaises. Exemple, sur les négociations du secteur public, c'est pas parce que c'était pas une bonne technique de placer le message du jour, une ou deux questions. C'est parce qu'il a donné à quelques reprises des réponses erratiques. Et donc, eux, ils en ont conclu, on fera plus ça. Puis là, maintenant, il est piégé, il faut qu'il passe entre les journalistes, en sachant pas, je dis-tu quelque chose, je dis-tu rien, je fais-tu une joke?
Mais même en cabotinant sur le résultat du match de hockey, encore là, il se met un pied dans la bouche, puis c'est pas...
Mais il se met un pied dans la bouche, parce que là, il répond pas. Si tu dis que tu répondras pas aux questions politiques...
Mais il répond pas, mais il répond, puis il alimente, ouais, puis ça fait une autre distraction.
Mais si tu dis que tu réponds pas, faut que tu parles de... T'as pas le choix, faut que tu parles de d'autres choses, parce que si tu réponds un peu à la question, ben là, t'as comme répondu.
Mais tu sais, Mario, il reste deux alternatives, tu sais. Tu sais, soit il y en a trois, là. Soit tu réponds à la question, comme tu dis, puis tu donnes deux, trois phrases, puis
ça aurait été simple de dire exactement.
Ben oui, puis là, tu dis, on a augmenté le nombre de services. Puis, tu sais, mais c'est parce que dans la stratégie du jour, là, elle est décidée le matin, là. Les ministres, ils sortent pas à droite, à gauche, puis le PM sort à droite, à gauche, là. On sait exactement c'est quoi les enjeux. On sait déjà pas mal c'est quoi les questions que les journalistes de la tribune vont poser. C'est un peu orchestré qui va répondre à quoi, à quelle priorité. OK, on va sortir Sonia Lebel sur le dossier, de l'État qui a grossi. Pourquoi le premier ministre, il dit pas, genre, soit pas de commentaires, ce qui ne paraîtrait pas une bonne stratégie, mais il pourrait juste dire Sonia, comme il est habitué de nous dire, Sonia, mon trésor, va répondre à ça tout à l'heure, va vous donner une réponse. T'sais, ma ministre responsable du dossier va répondre à la question. Juste, tu sais, mets l'habit de premier ministre, puis réponds quelque chose en lien avec le dossier, sans compléter la réponse, au moins juste pas l'éluder, pas l'éviter, puis faire comme si le fait d'avoir brisé un engagement électoral, c'était pas grave, tu sais, c'est juste fait face à la musique.
Mais je continue à penser que va falloir qu'il repense ce passage dans le corridor devant, ou qu'il change carrément de chemin, là, qu'il se trouve un corridor souterrain puis qu'il arrive par un chemin où il n'y a pas passé.
Moi, je pense qu'ils sont peut-être en train de réfléchir à ça, parce que tu sais qu'à un moment donné, c'était ça la théorie, hein, qu'ils avaient changé l'endroit où le caucus s'était fait pour éviter que tous les députés passent par la passerelle puis qu'ils puissent, les députés de la CAQ, rentrer directement au salon bleu.
Sauf que les députés, toi et moi, peuvent passer devant les journalistes puis dire on fait pas de commentaires ce matin. Mais le premier ministre, c'est un petit peu plus tough. C'est-à-dire que le premier ministre, il va passer aux nouvelles en train de dire pas de commentaires, puis ça a toujours l'air fou. Hey Marie, merci.
Il faut dire mes ministres vont répondre.
Ouais, c'est peut-être l'alternative. Bye, à demain.
Bye, Mario.
Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés.
Comment on dit ça? Les Américains niaissent pas avec le POC, ouais. C'est l'expression pourrait s'appliquer en matière de justice pour des crimes à caractère financier. Parce que celui qui fut à une époque la superstar vraiment là, des crypto-monnaies, Sam Bankman-Fried, qui s'est fait prendre qu'il y avait détourné, volé, appelez ça comme vous voulez, là, des fortunes. D'abord, il a fait de fortune parce que lui, il s'est retrouvé à accumuler des crypto-monnaies, une espèce de banque de crypto-monnaies, mais les crypto-monnaies ont pris de la valeur, donc son affaire à monnaie, ça valait plusieurs milliards, ça avait pris globalement énormément de valeur. Et donc, il a joué avec ça, joué avec les fonds, donc pris les fonds ni plus ni moins de ses déposants qui, on s'en est rendu compte, puis on s'est rendu compte que les fonds des déposants étaient disparus. 25 ans de prison, il a reçu sa peine aujourd'hui même. Catherine Bungia, consultante en stratégie, paiement et finances numériques. Bonjour Catherine.
Bonjour Monsieur Dumont.
Ouais, les Américains prennent ça au sérieux, les crimes économiques, hein?
Écoutez, ils y vont pas à la légère, quand même 25 ans de prison, c'est sûr qu'il y avait des parties qui demandaient un peu plus, là 110 ans, mais quand même 25 ans pour Monsieur Bankman Fred, qui a 32 ans, c'est énorme.
Ouais. Parce que si on regarde chez nous, au Canada, il n'y a pas grand monde qui a eu 25 ans de prison pour n'importe quelle fraude, crime à caractère économique, là. Est-ce que c'est justifié dans votre esprit? Comment vous, qui connaissez le domaine, comment vous évaluez ce qu'il a fait là, avec des gens qui déposaient? En fait, lui était comme une banque, là, il conservait leur crypto-monnaie, ou il avait le devoir de conserver leur crypto-monnaie. Comment vous évaluez ce qu'il a fait?
Mais monsieur SBF, là, pour son nom, n'était pas sans savoir les règles. Hein. C'est quand même un diplômé du MIT qui a fait carrière, en fait, une courte carrière dans la finance avant de se lancer dans les crypto-monnaies. Donc, je pense qu'il connaissait bien le risque. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la sentence est lourde. Les crypto-monnaies, on le sait, ce sont des monnaies qui circulent en dehors un peu du système bancaire traditionnel, qui sont extrêmement volatiles, qui séduisent beaucoup les investisseurs qui ont le goût du risque. Donc, Monsieur Bankman-Fried n'était pas les jeunes, les moins jeunes, pas seulement, mais voilà, sans connaître les règles. Voilà, il a joué avec le feu. Il a joué pour brouiller beaucoup de monde. Donc, la sentence, c'est certes, elle est lourde, mais selon moi, elle est quand même à la hauteur du préjudice qu'il a causé à de nombreuses victimes.
Ouais. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu de la valeur, là, qui ont perdu leurs avoirs.
Absolument, on parle de près de 8 milliards de dollars qui ont été détournés. Ce qui est important, c'est il y a le montant, mais il y a aussi vraiment, il y avait un stratagème derrière. Hein. L'un des chefs d'accusation, c'est fraude, association de malfaiteurs, blanchiment d'argent. Il y avait vraiment un stratagème derrière. Donc les gens qui utilisaient cette plateforme de crypto-monnaie, voilà, qui déposaient des fonds, comme vous déposeriez vos fonds sur un portefeuille de gestion d'actifs, mais en arrière. Monsieur Bankman-Fried, par l'intermédiaire de son entreprise et par l'intermédiaire du fonds d'investissement qui lui appartenait à lui-même, utilisait ses fonds soit pour payer des dettes ou soit pour faire eux-mêmes d'autres investissements. Donc oui, il y a l'importance, le montant, mais il y a aussi le stratagème derrière là que la justice a mis en avant.
Ouais. Il y a quand même quelque chose, comment je dirais ça, d'un peu surréaliste. Prenons les banques, là, les banques du Canada, le mouvement Desjardins. T'sais, ça a été créé, ça a plus de 100 ans. La plupart des banques, ça a commencé relativement petit. Puis c'est des longues, longues, longues histoires. Aujourd'hui, on regarde ça, on dit des géants. Pis... Dans son cas, fonds d'une affaire, ça prend de la valeur. T'sais, on y dépose des bitcoins ou d'autres crypto-monnaies, mais ça prend de la valeur tellement vite. T'sais, on compte tout à coup en millions, tout à coup en dizaines, en centaines de millions, puis oups, on se réveille l'année d'après, on a rendu qu'on compte en milliards. Puis l'année d'après, je veux dire, où joue le Heat de Miami, le stade porte le nom de son entreprise FTX, fait qu'il est devenu comme une méga grosse entreprise au point de donner le nom de l'entreprise à un amphithéâtre de sport. Est-ce qu'il n'y a pas un côté où tu te dis, ah, mais ça va trop vite. Je veux dire, quand les choses se font plus lentement, tu sais, on met en place des mécanismes de surveillance, tu sais, on embauche des comptables puis de premier niveau, puis l'équipe de surveillance, des, tu sais, deux étages de comptables, les uns qui surveillent les autres parce qu'on se dit, il y a tellement d'argent en jeu, tu sais, que ça doit être hyper surveillé. Dans le cas des crypto-monnaies, c'était comme, mais peut-être je me trompe, peut-être je vois mal, il me semble que c'était comme une jungle, ça évoluait tellement vite, ça prenait de la valeur tellement vite qu'on était très à risque de ce genre de scénario-là, non?
Ben oui, en fait, les crypto-monnaies, ça séduit beaucoup parce qu'on peut faire énormément de gains très rapidement, de façon très importante. Donc, c'est sûr que si on est un investisseur, il faut regarder de ce côté-là. L'envers du décor, c'est qu'on peut aussi faire des pertes. Et vous avez dit un mot très important, la jungle. C'est le problème qu'on a avec les crypto-monnaies versus les devises traditionnelles. C'est que c'est la jungle, c'est le Far West au niveau des crypto-monnaies elles-mêmes. C'est-à-dire que n'importe qui peut se lever, créer une crypto-monnaie sans avoir à détenir une licence. Et c'est aussi le Far West au niveau de la gestion de ces crypto-monnaies comme actifs. Et je veux rappeler, en fait, préciser que dans le cas dans lequel on est là, le scandale, ça concerne vraiment la gestion des crypto-monnaies comme actifs et pas la volatilité des crypto-monnaies.
Non. Alors, c'est leur conservation. Lui était comme une banque où on va faire son dépôt, où à la limite, on passait par lui pour acheter des crypto-monnaies puis il les conservait en notre nom. Là. C'était son devoir, là.
Absolument, et parce que justement les crypto-monnaies, il y a un peu cette jungle, il s'est dit, en fait lui ou ses associés se sont dit, ben on peut faire tout et n'importe quoi, on ne peut pas faire n'importe quoi, les crypto-monnaies, ça demeure des actifs. C'est un petit peu comme si, imaginez, votre conseiller en planification financière pouvait, n'importe qui pouvait se lever et devenir conseiller financier demain. Dans le cadre bancaire traditionnel, ce n'est pas possible, les conseillers financiers doivent obtenir des certifications, des diplômes, des formations, donc on a quand même un cadre réglementaire là qui s'assure que ce genre de dérive n'arrive pas dans les monnaies traditionnelles.
Ouais. C'est quand même, j'enlève tout le dossier, disons, financier, c'est quand même toute une débarque pour lui. Là. Il est passé de jeune génie, jeune prodige, ses deux parents qui enseignaient dans les universités les plus prestigieuses des États-Unis. Lui était le jeune génie, devenu multimillionnaire, voire milliardaire. Il avait une vie là, entre la Californie, les Bahamas, etc., une vie de jet-set. D'après moi, la prison, c'est plus le même genre de vie qui l'attend. Il vient de prendre toute une débarque.
Oui, l'histoire est rocambolesque, hein, et la chronologie aussi, c'est vraiment the rise and fall, là, ça s'est passé très rapidement. Sa plateforme de crypto-monnaie, il l'a créée en 2019.
C'est incroyable, en fait, c'est 2019, puis tout ça
2019,
s'est passé.
C'est ça. Et puis il y a eu un scandale. En fait, il y a un média qui a relevé un peu, qui a eu des soupçons autour de novembre 2022, du 2 novembre 2022. Et il y a beaucoup d'investisseurs, de clients se sont précipités pour retirer les fonds. Puis le 11 novembre, alors lui, c'était pas la signature de l'armistice, hein, le 11 novembre 2022, donc à peine une semaine après des soupçons là dans la presse, il a dû déposer faillite. Donc c'est une histoire complètement rocambolesque. Je pense qu'elle fera l'objet d'un film, assurément.
Oui, vous avez probablement raison. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir, Catherine Bungia, consultante en stratégie, paiement et finances numériques.
Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario.
Bonjour.
La LHJMQ, Ligue de hockey junior majeure du Québec, fait encore parler d'elle. Cette fois-ci, c'est pas pour c'est des initiations.
C'est un ancien gardien de but, en plus, qui a mis le doigt sur leur bobo, là.
Ouais, parce que là, c'est pas un scandale sexuel, cette fois-ci. C'est pas les commotions cérébrales, c'est pas les bagarres, Mario, mais c'est le français qui s'immisce, là, dans la LHJMQ, du moins l'absence de français qui fait jaser pas mal. Alors qu'hier soir, c'est le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon.
Ancien gardien de but de l'Université d'Oxford.
Exactement, quand même, hein. C'est prestigieux jouer
mais
au hockey.
Là, il joue en anglais, quand même. Après moi, en Angleterre, il joue en anglais à l'œil.
Oui. Ben, peut-être qu'il criait des bons jurons québécois quand il était dans un but. Pis ça,
c'est ça qui doit être le fun. Hein? Tu peux sacrer tant que tu veux, ça insulte personne.
Je suis pas sûr que grande personne sur des patinoires de hockey, Mario, qui sortiennent de sacrer en ce moment Québec, je te dirais. Mais revenons-en à nos moutons. Et la JMQ, donc, qui se font pincer, si on veut, là, les culottes à terre.
Ben, j'ai été étonné de ce que Paul Saint-Pierre Plamondon a partagé sur les réseaux sociaux. Sincèrement, moi, ça m'a étonné et un peu déçu.
C'est une image des voltigeurs de Drummondville, la photo en question.
The Voltigeurs,
exactement, de Drummondville, qui ont des chandails avec un texte qui est uniquement en anglais pour les séries éliminatoires Gilles Courteau Trophy Playoff, donc les séries éliminatoires du trophée Gilles Courteau. C'est ce qu'il aurait pu écrire sur le chandail, Mario. Je viens de faire le travail pour eux, mais bon, c'est pas ce qu'il y a là-bas, des chandails uniquement en anglais.
C'est vrai que c'est devenu une ligue, le Québec et Atlantique. Il y a plusieurs équipes de l'Atlantique maintenant. Ça demeure la ligue pas mal québécoise.
Je veux dire, c'est LHJMQ
ouais,
à la
ouais,
fin.
Exactement. C'est Maritime Québec. Puis de pas avoir de français du tout, compte tenu de l'historique de la Ligue, qu'on ait accommodé avec deux, trois mots d'anglais, j'aurais peut-être pas fait une scène, mais plus de français du tout, j'avoue ne pas en revenir.
Surtout que c'est pas une exception, Mario, parce que les Saguenay, Chicoutimi aussi ont une image avec un chandail à peu près similaire, là, uniquement écrit en anglais.
Et j'ai vu un responsable des communications de la LHJMQ qui disait, ni plus ni moins, qu'ils avaient, eux, comme une espèce de devoir là, de préparer les jeunes à un environnement, étant la Ligue nationale de hockey, les préparer à un environnement où ça se passe en anglais, tout se vit en anglais, fait que tout se bien de parler anglais. La grande majorité joueront jamais dans la Ligue nationale de hockey, puis je pense que le jour où ça va arriver, ils vont être assez motivés qu'ils vont apprendre leur anglais. Je pense pas que le fait d'avoir eu un chandail en français durant leur carrière junior va leur faire un si gros obstacle.
Là. Ouais, ben j'irai renchérir là-dessus, Mario, là. Je m'excuse. C'est comme si t'avais besoin là, d'un stage en anglais dans ton équipe de hockey pour être confronté au milieu anglophone. Parce que sinon, au Québec, là, à aucune place, nulle part, tu peux être confronté à l'anglais. Là, Je m'excuse. Fait que, plus vrai dans ce
monde-ci. J'ai trouvé ça inquiétant et décevant. Et là, il y a comme tout un mouvement, tout un questionnement sur l'espèce de glissement là, qui se passe dans la Ligue de hockey maritime Québec.
Et là, ben, du côté des politiciens, on a réagi rapidement. Là, oui, Paul Saint-Pierre Plamondon a ramené la nouvelle, mais ça n'a pas tardé à bouger du côté du gouvernement. Jean-François Roberge, le ministre qui est responsable de la langue française, qui a dit qu'on va devoir se pencher là, sur les manières de faire de la Ligue, et jusqu'à aller à parler ben, d'une enquête de l'Office de la langue française. On peut écouter un peu le ministre Roberge, Mario.
Je pense que c'est pas acceptable que la Ligue de hockey junior du Québec, que cette Ligue-là ne respecte pas le caractère francophone du Québec. Vous savez, le Québec est la seule nation francophone d'Amérique. On a adopté une loi qui précise que le français est la seule langue officielle, la seule langue commune au Québec.
Bon, ouais. Et j'ajouterais à son propos, les acheteurs de billets dans les deux villes qu'on vient de nommer, Saguenay et Drummondville, à mon avis, sont assez majoritairement francophones.
Voilà.
Les gens qui viennent encourager l'équipe au quotidien dans les estrades et lui permettre de vivre, là, c'est des francophones.
Ouais, puis les voltigeurs de Drummondville ont émis eux-mêmes un communiqué en rappelant qu'ils sont une organisation francophone, qu'ils veulent du français, qu'ils
oui, donnent valeur. Ils sont posés avec un chandail en anglais.
Oui, on comprend que c'est là que ça
on comprend aussi qu'il n'y a aucun jeune. Peut-être que c'est pas possible. Peut-être que il n'y avait pas un jeune dans l'équipe qui a dit moi je le porte pas, là, ou qui c'est. Ben, ils sont contents de faire les séries. Probablement qu'eux-mêmes sont. Ça fonctionne peut-être là au quotidien plus en anglais qu'on pense aussi dans la ligue. Hein?
Mais c'est ce qu'on explique là, au sein même des vestiaires d'hockey, ça parle en anglais. Là. Je veux dire, ça va parler en anglais sur la glace. Il y a des entraîneurs qui sont d'origine anglophone, Mario, d'ailleurs dans le Canada, d'ailleurs aux États-Unis, qui vont parler eux en anglais aux joueurs. Là. C'est ce qu'on comprend. Là. D'ailleurs, notre collègue Jean-François Barry sera ici plus tard à l'émission. Va peut-être te retoucher un mot là-dessus, mais parler avec notre collègue Sophie Durocher, justement son fils. Je le rappelle, est dans la LHJMQ et il dit que c'est essentiellement ça. Là. Oui, ils peuvent parler en français, puis les joueurs, les Québécois entre eux, parlent français, mais qu'il y a assez d'anglais pour que, ben, sur les entraînements, sur la glace et tout, mais ça se roule là, sur le banc même en anglais. Donc, c'est certain que ça a suscité tout un tollé aujourd'hui. Puis là, ben, on est encore en train de faire des vérifications. Il faudra voir qu'est-ce que l'Office aussi de la langue française va dire au terme d'une enquête autour de tout ça. Ça va peut-être servir d'avertissement aux autres équipes.
J'ai hâte de voir aussi ce que va dire le Québec Community Group Network là, qui s'inquiète pour la disparition de l'anglais, toutes les opérations pour faire complètement disparaître l'anglais du Québec.
Mais là, ça, c'est encore une initiative pour écraser.
Mais est-ce que c'est une initiative ça, qui pourrait, eux, les rassurer de voir que même au Saguenay, les joueurs ont des chandails en anglais sur le dos, que dire que peut-être que l'anglais n'est pas complètement en train de disparaître de l'Amérique du Nord. Il y a peut-être encore de l'espoir. Là.
C'est rassurant, Mario.
Pour eux, ouais.
Tout savoir en 24 minutes.
Autre nouvelle politique, puis c'est rare qu'on s'entend dans l'ensemble des partis politiques du Québec.
Ah, parce que c'est pour l'intérêt des partis, ils s'entendent.
Ah, ben c'est le cas.
Excuse-moi.
Est-ce que tu serais prêt à dire que c'est pour l'intérêt des partis, Mario, aujourd'hui? C'est ce que tu tentes d'insinuer?
Du peuple, je suppose aussi, un peu, là.
Oui, bravo.
Par extension. Ben, en Gaspésie, c'est très apprécié. Je veux dire, là, c'est très apprécié comme nouvelle, mais... C'est-à-dire que c'est une solution temporaire.
Donc, ouais, la solution en question, ben, c'est d'avoir stoppé, du moins pour l'instant, le redécoupage électoral au Québec. Parce que la carte électorale, avant les prochaines élections en 2026, on était censé procéder à un redécoupage qui allait essentiellement faire disparaître deux circonscriptions. Parce qu'avec les déplacements de population, avec les arrivées de nouveaux arrivants au Québec, avec ben, tout ce qu'on connaît comme changement démographique, ça fait en sorte que des circonscriptions qui sont très densément peuplées, d'autres qui sont énormes, par exemple, mais où il y a essentiellement presque personne, là, du moins moins, par exemple, que dans une circonscription qui fait même pas le centième, qui va se trouver à Montréal.
Et la tendance depuis 30 ans, plus que ça, 40 ans, pas compliqué, les régions éloignées perdent de la population, donc des comtés. Montréal, contrairement à ce qu'on peut penser, l'île de Montréal perd de la population un peu, en tout cas perd des comtés. Les comtés s'en vont où? Banlieue.
Voilà, les grandes couronnes.
Les couronnes, la couronne de Montréal, un peu aussi la rive sud de Québec, on a déjà gagné un. Mais c'est vraiment les endroits qui se peuplent, ce sont les banlieues. Et ben là, c'est encore ce qui se passait. La réforme que le ministre Roberge a bloquée ce matin, enlever un comté dans l'est de Montréal, enlever un comté en Gaspésie.
À Montréal, c'était Anjou-Louis-Riel, la circonscription qui était menacée de disparition. En Gaspésie, c'était pas l'aventure.
Mais tu sais qu'Anjou-Louis-Riel... C'est une circonscription libérale, parce qu'il y a des Italiens, des non-francophones, il y a tout un secteur. Et là, qu'on ajoutait la circonscription de Paul-Saint-Pierre-Plamondon. Je pense pas que M. Saint-Pierre Plamondon tenait tellement à ce redécoupage électoral. Déjà qu'il n'a pas gagné son comté par une grosse marge. Je remarque là, maintenant, il est rendu très populaire. Je pense qu'il serait dur à battre dans n'importe quelle circonscription, dans l'état actuel de l'opinion publique. Mais ça, tu sais jamais, là, qu'est-ce que les sondages vont être là, à l'automne 2026, à la veille des élections. Alors, de se faire rajouter là des blocs de population plutôt libérales... Je pense qu'il tenait pas tant que ça, tu sais.
Ouais, donc aujourd'hui, ben c'est tous les partis ensemble, main dans la main, Mario, qui sont sortis pour annoncer cette nouvelle-là. On comprend
mais là,
peut-être
mais là,
un peu
ils
mieux.
Ont aussi dit qu'ils allaient trouver une nouvelle formule. Parce qu'il reste que, je sais, je suis le premier à dire, ça n'a pas de bon sens le nombre de kilomètres que tu as en Gaspésie. Tu sais, ça me dit que le député ne peut plus représenter ça. Fait que quand le député ne peut plus se rendre, ne peut plus aller dans sa circonscription d'un endroit à l'autre, c'est un problème, on le comprend. Mais, est-ce que c'est l'inégalité des voteurs? C'est-à-dire que, tu te retrouves en banlieue. Puis un comté, mettons, il y a 75 000 ou 80 000 voteurs. Puis dans un autre comté, ben t'as 40 000 voteurs. Puis c'est comme si tu dis dans le comté en question où il y a 40 000 voteurs, chaque voteur vaut deux fois plus. Là.
Oui, c'est une injustice démocratique.
Mais c'est
comprend.
Ça, c'est une inéquité démocratique. On peut en tolérer, là, t'sais, jusqu'à un certain point, il y a une fourchette entre les gros comtés et les petits comtés. Mais la loi électorale prévoyait une limite. C'est-à-dire, tu peux pas avoir des comtés là, si gros et si petits. L'écart entre les plus gros et les plus petits doit avoir une limite. Et c'est pour ça qu'on faisait des redécoupages, pour garder cette espèce d'égalité entre les comtés. Là, on gèle tout ça. C'est correct pour une fois. C'est correct. Ça fait plaisir à tout le monde cette fois-ci. Mais il demeure un problème. Les partis ont dit qu'on allait revoir les règles de fonctionnement. Ça va être à suivre.
Actualité.
Ça revient. C'est cyclique, Mario, dans l'actualité, de revenir avec des nouvelles de l'ex-présidente de l'OCPM, l'organisme de consultation publique de Montréal, Dominique Olivier, qui, malgré des menaces de poursuite et autres contre les journalistes qui...
Des menaces ou une poursuite carrément poursuite direct, contre hein, Québécois, oui. Pour un million et demi, quelque chose comme ça.
Ben oui, parce qu'elle...
Il semble que nos collègues du bureau d'enquête n'ont pas cessé leur travail.
Ils en ont fait fi, Marion. On va pouvoir dire ça comme ça parce qu'ils ont reçu des nouveaux documents qui avaient été demandés avec des demandes d'accès à l'information qui leur ont permis de mettre de la lumière, encore une fois... sur d'autres dépenses, encore une fois dans des restaurants, de Mme Olivier, alors qu'elle se trouvait à la tête là, de l'OCPM. Je rappelle, là, c'est la dernière en liste, là, cette révélation-là, d'une longue liste qu'a faite le bureau d'enquête, qui a révélé que Mme Olivier, là, entre 2016-2019, 17 793 $ qu'elle a facturé
là,
aux contribuables
le
resto.
Le point précis, est-ce que c'est autre chose? C'est quand même intéressant, parce que ça a trait avec, disons, le menu des restaurants.
Voilà, et c'est en février 2019, entre autres, que remonte un de ces incidents-là, elle doit rencontrer une commissaire potentielle. Et
donc
pour
une
ce faire...
personne qu'on pourrait recruter. Mais on ne sait pas qui.
Mais là, puis pour recruter quelqu'un...
On ne sait pas si elle a vraiment été recrutée ou pas, on ne sait rien. Là.
Voilà. Mais pour recruter quelqu'un, Mario, on peut pas faire son bureau.
Aller manger avec. Mais ça peut se faire.
Un lunch. Oui, ouais. Ça peut se faire, en autant qu'on soit responsable, surtout lorsqu'on refile la facture au contribuable. Et c'est pour ça qu'ils sont allés dans un restaurant, le Damas à Outremont, restaurant cuisine de syrienne raffinée. Et là, ben c'est un
plat... Si je ne m'abuse, je ne vais pas dire une faussée, je pense que c'était le restaurant de René Angelil, qui était d'origine syrienne. Il me semble que c'était son restaurant favori.
Ben, tu vois, ça se pourrait, Mario. Et là,
Une bonne table.
Mais une bonne table avec un bon plat. Un plat... 170 $ avant taxe, Mario. Et là?
Mais ça, on se comprend que dans ce restaurant, nos collègues ont vérifié, c'est. Et t'as ça souvent dans des grands restaurants. Tu vas avoir un menu, mettons, le poisson, 42$, le steak, 51$. Puis, tu vois, l'espèce de plat signature de la maison. Donc, on va dire ça, c'est plus un plat ordinaire, c'est l'expérience gastronomique de la maison.
Oui, c'est unique ici.
Qui va être hors de prix, mais qui va être dans les trois chiffres ou quelque chose comme ça. Mais vraiment. Puis souvent, ça sera même pas dans la liste du menu, ça va être à part dans le bas de la page avec des petites étoiles pour te dire, là, tu sais, expérience gastronomique, puis là, t'as un autre prix. On devine que c'est ça que Mme Olivier choisissait.
Ben oui, parce que là, c'était caviardé, Mario. On peut pas savoir exactement c'est quoi qu'elle a choisi.
Mais on voit le prix.
Ben, on voit le prix.
Puis là, ils sont allés voir le menu pour dire, ben, il n'y a rien à ce prix-là, sauf...
1 plus 1 égale 2. Sur le site web du resto, on peut voir que sur le menu, une assiette de grillade de viande pour deux personnes, incluant du carré d'agneau de l'Alberta et du filet mignon, qui est vendu exactement 170 $ avant taxe, Mario. Donc, est-ce que c'était ça à l'époque aussi? On peut deviner, présumer.
Mais le point, c'est que c'est... Moi, j'appelle ça le plat signature, là, le plat hors catégorie. Puis, écoute, si tu veux une soirée gastronomique, tu veux célébrer quelque chose, tu décides de te le payer, c'est correct. Je trouve ça étonnant, là, dans une occasion où tu dis, regarde, un dîner, je m'en vais rencontrer quelqu'un, plus business meeting, sur le bras, là, tu sais, on le fait payer par l'office. d'aller choisir l'item, le plat signature. Or, pour vrai. Pour vrai.
Mais c'est surtout que c'est pas la seule instance, Mario. C'est là le problème en plus, parce qu'en décembre de la même année, nouvelle rencontre avec une autre commissaire potentielle. Cette fois-ci, le restaurant Icanos, chic restaurant du Vieux-Montréal, réputé pour ses fruits de mer et ses poissons. Et là, on va sur place, un plat d'une valeur de 208$ avant taxe, qui est encore une fois caviardé. Hein? Mais on dit par contre, Mario, chanceux que nous sommes les contribuables, qu'il y a une promo gérant de 150$ qui a permis de réduire un tout petit peu la facture.
À 150.
À 170,
quand même, 150 ouais. Pour une assiette, c'est bien payé, là.
Oui, ça c'est un bon repas. Je le prendrais, Mario.
Oui.
Je le dégusterais. Eh bien, c'est à peu près la même affaire qui est rapportée là, dans toutes sortes là, d'instances comme celle-là. Puis après ça, le problème, c'est que là, entre autres, on parle là, en mars de l'année précédente, un autre plat, 158$ au même restaurant. Et là, le but de la rencontre, cette fois-là, c'était pas pour un commissaire, c'était pour discuter de la consultation sur le racisme et autres dossiers. Le problème? Mais c'est que la pétition citoyenne qui a forcé Montréal à avoir une consultation publique sur la discrimination systémique et le racisme, c'est arrivé un mois plus tard. Oh. Quand il parlait de racisme, un mois avant. Il est avant-gardiste.
Avant que la consultation soit demandée.
Ben oui. On va le dire comme ça, Mario. Ils ont pris les devants.
Ils ont vu venir.
Ils ont pris l'initiative.
Mais peut-être que dans un plat à ce prix-là, ils te fournissent du thé. Puis là, dans le thé, tu peux lire l'avenir.
Oh! Mais ça, c'est pas pire, Mario. Dans les feuilles de... Hein?
Dans les feuilles de thé. Ça, je connaissais un bon restaurant, moi, mais ça, c'est cher.
C'est cher?
C'est cher. Ben moi, j'ai quand même mon restaurant de temps en temps, moins qu'avant. J'ai quand même, je considère dans des restaurants bien corrects, puis je prends pas toujours ce qu'il y a de moins cher, puis je m'approche jamais de ça, là.
Ouais, tu détournes le budget dans le vin, par contre.
Ben, même au restaurant, non, je fais plus attention. Si je prends un vin cher, moi, le prendre chez nous. Parce qu'à un moment donné, parce que, non, mais tu sais, le restaurant qui te le vend 3 fois le prix de la SAQ, là, mettons, parce qu'à un moment donné, ça n'a pas d'allure, là.
On y reviendra avec une chronique gastronomie, oui, Mario. Oui, ça va nous prendre ça.
Je paye moi-même.
Oui. C'est ça.
C'est ça la grande différence. J'allais dire, c'est ça la beauté. Non, c'est ça mon problème.
Tout savoir en 24 minutes.
Dans les affaires judiciaires, ça brasse pas mal aujourd'hui, Mario, alors qu'on a eu non seulement la confirmation qu'il va y avoir procès dans la tragédie, le double meurtre, maintenant on peut le dire comme ça, de la garderie de Laval. Pierre-Nice Saint-Amand, 52 ans, le chauffeur qui a embouti volontairement une garderie, tuant sur le coup 2 enfants, une fille de 5 ans, un garçon de 4 ans, avec son véhicule le 8 février 2023, qui est non seulement apte à subir son procès, mais qui va le subir, Mario, pour des accusations, là, double accusation de meurtre prémédité, entre autres.
Meurtre premier degré. J'avoue être surpris parce que, à un moment donné, on savait plus à quoi s'en tenir tellement ça a été long, là.
Ouais.
Tu sais, ça a été reporté, sans jamais qu'on ait aucun détail là, préliminaire sur ce qui... On savait juste que l'Institut Philippe Pinel avait besoin de plus de temps pour faire son évaluation. Peut-être à tort, probablement à tort. On finissait par conclure, OK, son cas est extrêmement complexe, il ne doit pas être apte à subir son procès.
Mais il avait comparu de l'hôpital, maintenant, puis il avait frappé dans le visage un policier à côté de lui, là, pendant la comparution, là.
Mais là, probablement qu'à Pinel, l'individu donnait des signaux contradictoires. Ou... J'avoue que ça me mystifie un peu, là, tu sais, parce que quand quelqu'un, t'es soumis au risque de faire de la prison à vie, tu dois être aussi, veux pas tenter de jouer la comédie puis de faire le fou, puis tu sais...
Ouais, c'est difficile, là, c'est le rôle après ça.
Mais c'est ça, jouer au malade, là.
Mais dans ce cas-ci, qu'il ait joué ou pas, Mario, apte à subir son procès, deux fois meurtre premier degré, puis après ça, il y a des tentatives de meurtre, des voies de fait graves aussi.
Change, mais je veux dire, ça change tout, là. Ça devient un procès qu'on va suivre. Va être intéressant de savoir, bon, on sait... Tout ce qui est arrivé, on le sait. Là. Je veux dire, ce qu'il a fait, tu sais, c'est filmé, on le sait. C'est juste que... Probablement que dans le procès, on va savoir l'avant, la préméditation, les heures d'avant, les jours d'avant. On va sans doute avoir plus d'explications sur lui, là. Parce que à date, c'est ça qu'on sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il l'a fait, puis après ça, il était comme un fou furieux là, qu'on a dû maîtriser, là, que des hommes sur place, des pères de famille ont dû maîtriser sur place. Ouais. Mais on sait rien sur son avant. Là, on dit meurtre prémédité.
Ça veut dire qu'on a des preuves.
On a des preuves qu'il a prémédité, qu'il a préparé le coup. C'est ça qu'on risque d'apprendre au procès.
Il reviendra dans tous les cas en cours en avril pour la suite des procédures.
Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
J'en parlais, c'est beaucoup, beaucoup d'actions, c'est à la scène judiciaire aujourd'hui, alors qu'on a en ce moment un procès qui revient, Mario, un dossier qu'on a déjà couvert ici à Cube en octobre 2022, pour lequel on avait peu de détails à l'époque, ça semblait être un cas hors du commun, puis maintenant, ben, ça se concrétise alors que le jeune de 20 ans, Nicolas Côté, a reconnu son crime, celui d'avoir tué et démembré un sexagénaire, mais c'est les motifs de cette agression, de ce meurtre qui sont maintenant dévoilés.
Pour situer les gens, c'est une arrestation qui avait eu lieu sur le bord de la rivière Richelieu ou une descente de bateau où on allait jeter, jeter le corps à l'eau là, dans des sacs. Le jeune homme et une complice. Là.
Voilà, une complice qui était sa copine de l'époque là, qui ont été arrêtés alors qu'ils étaient pris sous filature là, à ce moment-là, deux jours après le meurtre. Je reviens au meurtre lui-même, c'est qu'à ce moment-là, Nicolas Côté, lui, échange avec un ami et aurait appris que cet ami en question aurait déjà été supposément agressé sexuellement, là, subi une agression sexuelle lorsqu'il était mineur des mains de l'homme de 64 ans, Luc Lafontaine. Et là, ben, il décide de le venger en faisant ce qu'on pourrait appeler en anglais là, du catfish, là, aller faire du si on veut, là,
de l'hameçonnage. A obtenu son numéro de téléphone cellulaire et s'est fait passer pour un jeune intéressé à avoir une aventure avec lui.
Ouais, puis même, il se fait passer, était lui-même un jeune à ce moment-là, on se comprend. Et là, ben, des textos à connotation sexuelle, envoie pas moins de 117 messages à sa future victime, des messages la journée même, des photos d'organes génitaux. Et là, ben, se rend au domicile de M. Lafontaine à Saint-Hubert sur la rive sud. Puis le but est clair, là, c'est d'avoir une relation sexuelle, donc, entre les deux. Et là, ben, il se rend sur place. Lui voulait, dit-il, le confronter, le mettre devant les faits accomplis, lui dire, hey, t'as agressé mon ami, etc. Et là, ben, le problème, c'est que sur place, semble-t-il, que ça dégénère. Lafontaine fait des avances aux jeunes.
Et quand Lafontaine le touche physiquement, là, sur ses organes, tout ça, il disjoncte. Essentiellement, c'est ce qui est décrit, c'est qu'il pète les plombs. Là.
Ouais, pète un câble complètement, attrape le premier objet qui vient sous la main, trouve un marteau, se met à lui asséner des coups sur la tête, 5 coups de marteau différents. Et là, ben, l'homme de la soixantaine devient agressif, réagit, insulte, menace. Et là, ben, le jeune en question se serait rendu dans la cuisine, attrape un couteau et se met à poignarder Luc Lafontaine, 25 reprises différentes, au cou, à la tête. 3 plaies qui sont mortelles, dont une au cœur à ce moment-là. Puis par la suite, Nicolas Côté se met à démembrer sa victime en plusieurs morceaux, essayer de nettoyer la scène de crime des heures qui ont suivi, envoyer comme des faux textos à victime, comme si tu sais, c'était pas encore rencontré à ce moment-là. Le problème, c'est que ça n'a pas été compliqué pour les enquêteurs de se rendre compte que le dernier appel ben, provenait du téléphone de Nicolas Côté. L'ont rencontré, il a dit n'avoir rien à faire avec le crime, l'ont quand même mis sur filature, et là, 2 jours plus tard, en soirée, avec sa copine, ben, ils sont allés chercher un canot et s'apprêtaient, on se comprend, avec des morceaux du corps, à aller le jeter à la flotte, ni plus ni moins, et ont été interceptés tout de suite avant par les policiers. Sa copine, Zoé Boutin, 20 ans, plaidait déjà coupable en décembre dernier une accusation d'outrage à un cadavre. Donc, on verra dans quel cas, là, quelle sera la sentence pour elle. Mais 2 aveux de culpabilité, vraiment un drôle de dossier judiciaire, Mario.
Économie.
Certaines personnes ont peut-être pu le voir en première page du Journal de Montréal, Mario, aujourd'hui, publicité qui ressort quelqu'un, je vais le dire poliment, des boules à mythe.
Mais en première page du journal, mais sincèrement, je sais pas la job que Rona a fait de réserver de la publicité. Sur les sites, si tu fais de l'Internet au Québec, là, sur les sites Internet un peu partout, cette publicité-là était omniprésente aujourd'hui.
Oui, on voulait vraiment faire une campagne là, à grande échelle parce que...
Ça s'appelle un barrage publicitaire. Là. Quand tu t'assures que quasiment dans une journée, n'importe qui va sur Internet va l'avoir, t'achètes l'espace. Parce que la force, c'est une affaire d'une journée, là, ce coup d'éclat avec Ron Fournier.
Oui, parce que ça va concerner après ça ben, le match du Canadien de Montréal là, qui va se tenir en soirée. Et après le match des Canadiens, ben, Ron Fournier sort de la retraite. Pis c'est un peu ça le slogan. Là, Ron sort de la retraite pour vous sortir de la retraite pour inciter les jeunes retraités à retourner sur le marché du travail, entre autres dans les Rona, donc pour la publicité.
Et je dirais que c'est la deuxième. La campagne est incroyable. La deuxième chose, c'est que tu dis, écoute, un commerce, une chaîne de commerce qui fait une grosse campagne comme ça, de toutes les époques, ils veulent vendre leur matériel. Ils veulent vendre leurs 2x4, ils veulent vendre des ampoules, ils veulent vendre des outils, ils veulent vendre leurs affaires.
Mais là...
Ce n'est pas l'objet de la campagne du tout. Du tout.
Ils veulent recruter, au contraire.
Des retraités.
Voilà, c'est la marchandise. C'est vous à la maison, jeunes retraités, donc, qui veulent être récupérés par Rona. Et donc, ben, à cet effet-là, ben, Ron Fournier qui sort de sa retraite, qui va faire un Facebook Live aussi ce soir, hein, moyen peut-être d'aller chercher le plusieurs générations, Facebook Live avec l'usage des médias traditionnels, donc qui sont combinés dans ce cas-ci.
Facebook Live, je comprends qu'il va être à cheval, où tu vas pouvoir parler de hockey, ou parler de retraite, ou de sortie de la retraite, ou de bonheur de retourner travailler, ou tous les sujets vont être ouverts avec le avec Ron, qu'on aime, qu'on aime tellement.
Ben voilà.
Et donc, sa façon quand même unique de faire des lignes ouvertes.
Exactement, donc ben ça va être une ligne ouverte toute spéciale aussi, là, peut-être que ça va lui redonner le goût, ou du moins que ça va le lui ramener un peu, là, de bonheur de son emploi qu'il a quitté maintenant pour la retraite. Donc, toute une publicité, Mario, qui a pas fini de faire jaser. C'est ce soir que ça se poursuit.
Le monde.
J'en profite, Mario, aussi, parce que, ben, il y a une théorie du complot. Mon Dieu, que je suis heureux.
Ça fait deux, trois semaines qu'elle roule en fou, celle-là, là.
Ouais, elle roule en fou, celle-là. Mais là, on est rendu au point où même, tu sais, les milieux politiques sont obligés, tu sais, d'intervenir puis de dire que ça n'a pas de bon sens. Puis ça se multiplie, Mario, là. Dans ce cas-ci, ça concerne Brigitte Macron, hein, la femme, évidemment, du président français, Emmanuel Macron. Mais, les femmes présidentielles, là, ils sont presque toutes passées, là. On a déjà vu les mêmes rumeurs à partir de Michelle Obama, hein, la femme, bien évidemment, de Barack Obama. Des rumeurs qui disent qu'ils sont des hommes trans, en fait. Là. En fait, des femmes trans, donc des hommes qui auraient décidé de faire un changement de sexe. C'est ce qu'on comprend. Ce sont des rumeurs qui sont relayées, Mario, là, par des milieux d'extrême droite, ultra-racistes, ultra-homophobes, qui vont ramener là, constamment cette espèce de vieille rumeur-là. Puis le problème, mais c'est qu'en ce moment, c'est en train d'être
mais
repris.
Mais parce qu'ils diffusent des fabrications, là, des images, des fausses images.
Ils sont à la chasse aux sorcières, pour vrai, Mario. Là, vont montrer des diagrammes, puis des photos. Là, puis là, tu zoomes, puis regardes son visage-là. Puis ça, entre autres, ben, des blogueurs, je vais le dire poliment, comme par exemple Candace Owens aux États-Unis ou encore des gens comme Tucker Carlson qui ont relayé là, ces espèces de mensonges-là au fil des ans. Mais je vais te le dire, celle sur Brigitte Macron en ce moment, excessivement tenace, là, des montages sexistes dégueulasses que j'ai vus là, dans les derniers jours, même sur des groupes
mais
complotistes elle-même,
elle
québécois.
Mais elle-même, elle doit-tu capoter?
C'est spécial, là, un point tel, elle doit capoter tellement que ben, ils ont dû saisir de la justice en France il y a quelques temps autour de ça. Puis qu'Emmanuel Macron, là, pour la journée internationale des droits des femmes, en a parlé, littéralement, dans son discours. Non, vraiment, il y a des gens qui sont un peu dégueulasses, Mario, puis qui feraient n'importe quoi ou diraient n'importe quelle niaiserie pour invisibiliser certaines femmes de pouvoir dans le monde.
Et pour des clics.
Ah, mais ben, ça, c'est le nom de la guerre.
Clics, et pour des clics qui leur rapportent. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Isabelle Maréchal.
Tous les trois mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit. Là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Mario Dumont.
Comme on dit en québécois, que ça a fessé, là.
La rencontre, Maréchal Dumont.
Je sais pas comment on va y arriver.
Isabelle, est-ce que c'est encore un métier recherché, être éducatrice ou éducateur en petite enfance?
Écoute, c'est une très bonne question et malheureusement, je dois te dire qu'il faut déployer de grands efforts quand on est gestionnaire de CPE, de garderie pour attirer des vocations. D'ailleurs, tu vois, aujourd'hui, je participais à un grand événement où on essaie justement de se poser des questions, essayer de trouver des solutions pour redorer la profession, revaloriser le métier d'éducatrice et d'éducateur. Je dis d'abord éducatrice parce que c'est une profession majoritairement féminine, mais on tend à vouloir changer ça et justement parce qu'on veut des nouveaux bras, on veut du monde pour s'occuper de nos enfants, on veut des gens qui sont prêts à aller donc chercher des certifications. Tu sais qu'il y a toutes sortes de parcours, tu peux faire du travail études pour devenir éducateur, tu peux faire, évidemment, il y a une formation comme au Collège Montmorency à Laval, entre autres, ils ont un DEC en petite enfance, en éducation à la petite enfance.
Mais ils se donnent à plusieurs endroits.
Ils se donnent dans plusieurs cégeps. Moi, je trouve que c'est un beau métier, Mario.
Mais en fait, les premières années, quand le DEC a été créé, ma compréhension, c'est que c'était plein. Là, ça s'inscrivait, puis il y avait du monde. Et là, maintenant, ils remplissent plus. En tout cas, peut-être certains cégeps, oui, mais je pense qu'en général, ils remplissent plus complètement ce qu'ils pourraient prendre, les cohortes qu'ils pourraient prendre là, s'ils remplissaient le programme.
Ben écoute, je vois que tu connais bien le dossier. Effectivement, c'est le cas. C'est malheureusement ça. Il y avait, entre autres, aujourd'hui, quelqu'un de la Fédération des cégeps qui disait qu'il y avait quand même du positif. C'est que là, ils voyaient qu'il y a un intérêt, mais il faut le mousser plus. Il faut faire valoir que la profession est intéressante puis qu'il y a des possibilités d'avancement. Mais tu sais, moi, j'en...
Mais on manque d'inscrits en enseignement. Même des métiers parallèles à ça, il manque d'inscrits partout. Là, fait que tu peux pas les transférer. Il manque d'inscrits dans beaucoup de domaines.
Dans beaucoup de domaines. T'sais. Puis il y a plusieurs éléments qui expliquent ça. D'abord, c'est ça va faire 4 ans qu'on a vécu cette pandémie, puis il y a eu un impact de la pandémie sur le marché du travail. On savait déjà il y a 20 ans qu'on aurait un problème de pénurie de main-d'œuvre. On s'est beaucoup mis la tête dans le sable. Aujourd'hui, sans même la pandémie, on aurait eu un enjeu de rareté de main-d'œuvre. Avec la pandémie, je veux dire, c'est décuplé.
Puis, alors là, aujourd'hui, on a un autre problème, c'est qu'il y en a beaucoup, puis je le reproche pas, là, moi je les comprends, c'est beaucoup des jeunes mères de famille.
Oui.
Ils veulent travailler 4 jours.
Ben, il y a ça, mais ça, c'est pas tant le problème. C'est combien t'es payé? Ben, non, parce que tu pourrais, à la rigueur, tu sais, sincèrement, je parlais à des gestionnaires aujourd'hui de garderie, de CPE, puis qui me disaient, ben, nous, on est capable de moduler les horaires. Il y a quelqu'un qui veut faire 3 jours, toi, tu veux faire 2 jours. Le problème, c'est, bon, il y a toutes sortes d'enjeux.
Non, mais tu comprends que c'est de la perte de main-d'œuvre. Quand ceux qui travaillent pas 5 jours, c'est des journées. Quand t'en manques déjà, c'est des journées perdues, là.
Puis des fois, ben, t'as des gens qui veulent faire des demi-journées. Mais ça, à la rigueur, je te dirais, ça gère, tu sais. Mais là, le problème, et quand je dis revaloriser la profession, si elle a déjà été valorisée, c'est valorisons ce métier-là d'éducatrice et éducateur. Tu sais, on le dit, là, tout se joue en 0-6 ans. Il y avait des psychologues ce matin,
écoute, on l'a valorisé. C'est le secteur où il y a eu, dans les dernières années, les plus grosses augmentations de salaire. On a créé des fonds de pension, il n'y en avait pas.
Mais c'est pas égalitaire partout, tu sais. On a beaucoup misé sur les CPE, puis c'est correct. Mais tu sais, je parlais à des gens qui ont des garderies privées non subventionnées, qui me disaient, nous, on est un peu désavantagés. C'est complexe. Tu as 4 types. T'as CPE, t'as garderie subventionnée, t'as garderie non subventionnée, puis t'as garderie en milieu familial. C'est complexe, là, comprendre tout ce système-là. Peut-être qu'il faudrait que le gouvernement regarde ça puis nivelle un peu plus puis soit un petit peu plus égalitaire, tu sais. Écoute, notre modèle de CPE est regardé par le reste du Canada.
Et donc, personne ne le fait. Parce que ça coûte trop cher.
Ben parce que ça. Oui, puis il y a peut-être. Tu sais, je pense que.
Partout dans le monde.
On va avoir un problème.
Non, mais partout dans le monde, des pays sont venus regarder ce qu'on faisait, puis on disait, ça n'a pas de bon sens, ça suscite l'envie, mais ils le font pas parce que ça coûte trop cher.
Ben, je sais pas où ça coûte cher. En tout cas, c'est certainement pas en salaire des éducatrices.
Ça a plus que doublé en quelques années, là, ce que ça coûte en salaire.
Il était au salaire minimum.
Fonds de pension et autres,
c'est ça. Quand tu regardes aujourd'hui, moi, ce qu'on me disait, c'est qu'un salaire de base pour une éducatrice qui commence, c'est même pas 20 $, c'est 19,83, quelque chose comme ça. C'est pas 20 $. Tu connais-tu beaucoup de jeunes en ce moment, étudiants, qui sont prêts à aller travailler pour 18-19 $, même pas 20 $? Moi, j'en connais pas beaucoup, là. Et au bout de.
Puis ils sont en négociation.
Et ça te prend 10 ans avant de pouvoir dire je vais augmenter. Alors, toute la valorisation, c'est sur 10 ans. C'est long, 10 ans. Fait que là, t'as ton potentiel de revenu et tout, tu le mets sur. Sincèrement, il y aurait plus d'hommes d'ailleurs. Puis c'était le fun parce qu'il y avait des éducateurs aujourd'hui qui disaient faudrait qu'il y ait plus de. Tu sais, ils ont fait un beau livre, Victor au CPE. Puis c'est pour encourager les gars à aller devenir éducateurs, qui est un beau métier. Et c'est pour les petits garçons, pour qu'ils aient envie, eux aussi, de devenir des éducateurs.
On le sent pas tant, quand même, les gars éducateurs.
Tu sais pourquoi? Ben, on va revenir à la question des salaires. Puis, il y avait des gens qui racontaient ce matin... Ben, beaucoup.
De faire un métier, que des pères de famille s'occupent de leur bébé, oui, mais on dirait que des hommes allaient s'occuper des petits.
Mais là, il faut changer notre culture.
Ouais, peut-être.
Pourquoi pas?
Moi, je dis, on le sent moins. Je dis pas que c'est pas faisable, puis c'est pas correct.
Mais je trouve que les nouveaux papas sont très aux soins de leur bébé. Là, tu sais, j'étais dans un transport. J'ai pris l'avion en fin de semaine, puis il y avait un papa, là, un couple québécois qui venait d'avoir son bébé. Il était trop mignon. Et le papa, c'est le papa qui s'est levé, qui a pris le bébé, qui est allé changer dans les toilettes de l'avion. Bon, il a flushé la couche dans la toilette de l'avion. C'était peut-être pas la chose à faire. Ne flushez pas vos couches dans les toilettes, ça se fait pas.
D'un avion,
mais
encore moins.
Encore moins d'un avion. La jambe de bord était un peu désemparée. Mais, je veux dire, t'aurais pas vu ça il y a quelques années. Fait que je pense que, tu sais, c'est un changement de mentalité. Puis, tu sais, je te parle aussi du salaire, mais il y a la question des stages. Puis la question des stages, ça touche pas juste là, les éducatrices.
Il y avait une manifestation hier, avant-hier, à Québec. C'est ça, parce que depuis quelques années, tout ce qui est le secteur social, là, voilà. Le psycho, travail sociaux, c'est des stages non rémunérés.
Oui, mais écoute, je sais pas si tu en as eu, toi, des stages dans ta fière jeunesse.
Pas vraiment.
Ben, en tout cas.
Non, mais je comprends que c'est un problème parce que là, on les fait travailler pour vrai. Là. Ils travaillent vraiment.
Moi, je dis, puis ce sont les infirmières témoignant en disant, voyons donc, moi, pourquoi je ne serais pas payée? Et moi, je trouve que c'est vraiment dommage parce que le gouvernement du Québec a dit non à la rémunération des stages. Et ouais, là, il y aura une manif aussi demain. Puis là, ils disent, ben, on n'a pas les moyens. Et moi, je reviens toujours à la question du choix.
Oui, mais le gouvernement va dire non à 11 milliards de déficit. C'est pas compliqué. T'écris non, ça apporte d'un avant.
Ils vont dire non à tout d'abord.
Tout. Là. Tu peux plus dire oui à rien. Là. T'es 11 milliards de déficit. Là. Mais il faut te surprendre. Pas non à vie, mais pour une couple d'années. C'est comme, tu peux pas, t'as tout donné aux employés du secteur public actuel.
Non, ça, c'est faux dire mais ça, c'est vrai, tu peux pas dire que t'as tout donné, on n'a pas donné 11 milliards de dollars aux employés de la fonction publique.
Toutes les marges de manœuvre existantes, on les a mis là.
Mais oui, mais c'est parce que les choix
c'est
qu'on a
fait... C'est peut-être un bon choix, là, de bien payer nos employés du secteur public, mais faut accepter...
Moi, je pense que oui.
Ben, faut accepter qu'il y en a plus pour les stagiaires et pour le reste. Là. Faut juste accepter la conséquence.
On revient à des choix, moi, je pense que... Oui, mais en même temps, on est prêt à donner à des grandes entreprises...
Mais
quand même, on est prêt à donner beaucoup de choses à beaucoup d'autres personnes, tu comprends?
Mais là, on en donne pas aux agriculteurs qui en demandent, c'est non à tout le monde.
C'est vrai qu'il y a des gros besoins. Et le problème, sais-tu, c'est que c'est pas les besoins, les demandes actuelles, le problème. C'est les choix qu'on a fait il y a quelques années, puis là, on paye pour aujourd'hui. Peut-être. C'est ça le problème, c'est ça l'enjeu.
Mais là, cette année, comme disait l'autre, on n'a plus.
Mais il va falloir s'attendre à ce qu'il y ait de moins en moins de gens. Puis là, la pénurie de main-d'œuvre qu'on annonce jusqu'en 2030, ben ça va être ça. On va trouver le temps long.
Isabelle, merci.
Merci, Mario.
Le problème n'est pas là.
Francis Gosselin.
Ça sonne comme une arnaque.
J'ai-tu une bonne logique, moi, là?
Mario Dumont.
Dis pas que c'est pour faire plus d'argent.
La rencontre. Gosselin. Dumont.
Francis, l'entreprise de M. Trump qui se faisait une grande fierté de son entrée en bourse à succès. Ça a duré juste deux jours?
Ben écoute, c'est toujours... L'aventure n'est pas finie, n'est-ce pas?
Mais c'est toujours ça, non? Souvent, là.
Ouais, mais là, c'est particulier, Mario. Là. Je veux dire, rappelons les faits. M. Trump a une entreprise dont le principal service produit, là, c'est Truth Social, donc son réseau social.
Un réseau social.
Dont il est le héros. Là.
Oui.
Je sais pas si s'en allait, si les gens continueraient.
Là, il se lance en bourse. Les deux premières journées, l'action monte.
C'est particulier. Il se lance pas en bourse, en fait. C'est un truc, les Américains ont inventé ça il y a une dizaine d'années. On appelle ça un Special Purpose Acquisition Vehicle, un SPAC. Donc, en fait, c'est une compagnie que tu entres en bourse. Donc, toi et moi...
Lyon Électrique est rentré comme ça. Lyon Électrique, rentré en bourse, ça s'appelait NR quelque chose.
Exact. Et en fait, tu as la compagnie de M. Trump et donc il fusionne cette compagnie-là. Cette compagnie-là a levé des fonds avec l'idée qu'éventuellement il allait acheter quelque chose, puis cette compagnie-là qu'il allait acheter, qui avait des vraies activités, allait devenir cotée en bourse. Donc il fait ça. Et donc il est
en
bourse.
C'est une passe pour rentrer en bourse par la banque.
Ouais, puis tu sais, M. Trump, qui n'a pas la réputation de toujours faire des affaires très proprement, là, tu sais, évidemment, utilise ce stratagème-là pour faire son entrée en bourse parce qu'évidemment, quand tu fais un IPO, là, un appel public à l'épargne, Mario, il faut que tu fasses faut que tu dévoiles tes chiffres longtemps en avance, etc. Alors que en passant par un SPAC, donc avec cette
coquille... Il y en a beaucoup qui font ça, c'est la nouvelle mode. Là.
Oui, mais donc, comme c'est une acquisition là, au sens légal du terme, la compagnie que tu acquiers n'a pas à faire tout le dévoilement anticipé de ces résultats, de ces chiffres, etc.
Je comprends très bien.
Ils vont devoir le faire maintenant qu'ils sont en bourse, mais t'as l'obligation de le faire après que ça soit entré en bourse et pas avant. Bref. Et donc, il fait son entrée en bourse. Mario, Truth Social, l'ensemble de la patente, gagne quelque chose comme 3-4 millions de dollars.
Milliards?
Non, millions, Mario. Et en perd 50, OK? Et donc, aujourd'hui, la valorisation de Truth Social slash Donald Trump, c'est 9,5 milliards de dollars, soit 2000 fois les revenus. OK? Donc, je pense pas que t'avais bien vu, Mario. C'est des millions de dollars qu'ils gagnent.
Qu'ils font en argent.
Ils gagnent en argent.
Non, mais ce qu'ils ont gagné en valorisation boursière en deux jours,
mais c'est
3 ou 4
c'est
milliards.
C'est 2000 fois les revenus.
Parce qu'ils font pas d'argent.
Ils font pas d'argent. C'est 3-4 millions de revenus. Tu comprends? Donc, il y a comme un ça n'a pas rapport.
Mais ils ont fait en bourse, en deux jours, 3-4 milliards.
Ils ont fait, en fait, ben la
valeur,
c'est de l'argent, c'est du paper money, comme on dit en bon français, et la portion de M. Trump est de 4,5 milliards. Il a à peu près, je pense, 60% de la patente entière.
Mais aujourd'hui, ça a perdu combien?
Ben là, par contre, juste cette affaire, il ne peut pas vendre avant 6 mois. Hein. C'est quand tu es un initié et que tu fais un appel public à l'épargne, un IPO, tu ne peux pas vendre les premiers 6 mois. Et donc, M. Trump...
C'est pour ça que lundi, on disait, ça peut pas régler son problème.
Sur papier, ben, il pourrait, comme on dit, emprunter contre cette valeur, parce que si tu as 4,5 milliards d'actions, quelqu'un peut prêter une couple de millions, certainement.
En les mettant en garantie, à limite.
Si tu paries que ça va encore valoir 4,5 milliards dans 6 mois. Et donc là, le premier jour, l'action a beaucoup monté. Apparemment, c'était dopé beaucoup par des... Un peu comme le phénomène GameStop. Là. C'est des fans de M. Trump qui sont allés acheter quelques actions. Et donc, ça a fait monter le prix de l'action. Elle a augmenté d'à près 45%. Mais là, depuis ce matin, on dirait que la réalité commence à s'ancrer. Et donc, ça a perdu 6-7% dans la journée.
Mais nouvelle action, quelle qu'elle soit, c'est hyper volatile. Là, ça monte en fou. Ouais. Le monde se rend compte que ça a trop monté, ça redescend.
Mais tu sais, Nvidia, là, qui a une autre histoire, elle vaut comme 12 à 15 fois ses revenus. Tu sais, c'est beaucoup. Certaines entreprises technologiques, c'est 20, 25 fois, mais 2000 fois les revenus. Puis entre nous, Mario, qui est-ce qui va acheter de la publicité sur Truth Social? Qu'est-ce que ça va devenir? Es-tu là-dessus, toi?
Alexandre est dessus parce qu'il capote sur les complotistes puis il surveille tout ce qui se fait.
Je pense pas qu'il va aller acheter des baskets sa prochaine voiture via Truth Social.
C'est plus une curiosité journalistique de voir ce qui se dit là-dessus.
Donc, je pourrais faire la même chose, mais je pense que M. Trump est pas sorti de l'auberge. Puis évidemment, si ça devait s'effondrer, je prédis rien, mais tu sais, je pose l'hypothèse qui est pas improbable. Si ça devait s'effondrer puis il perd 70, 80, 90% de sa valeur, comme on a vu Facebook et d'autres le faire il y a quelques années, ben évidemment, ça serait une espèce de petit, de chip là, sur l'épaule de M. Trump, c'est-à-dire le grand businessman dont l'empire a perdu 90% de sa valeur. Donc, on va voir comment ça se comporte, mais pour moi, c'est à la fois une opportunité un peu particulière qui se saisit, mais ça pourrait devenir son espèce de
Waterloo. On s'entend que c'est une valeur qui repose uniquement sur la foi en Donald Trump. Trump et sa capacité de rester populaire. Parce que si t'enlèves ça, Truth Social, ça a zéro. Si t'enlèves Trump, ça vaut rien. C'est un réseau social de merde secondaire, inutile. Parle-moi de la condamnation de Sam Bankman-Fried qui a eu l'homme des crypto-monnaies déchu là, qui a eu sa sentence.
Oui, bien évidemment, apparemment, on l'avait reconnu coupable. Hein, puis aujourd'hui, donc la sentence est tombée. Il est condamné à 25 ans de prison. C'est quand même un jeune homme. Là, fait que ça veut dire qu'il va sortir de là comme à la fin. En fait, tard dans sa vie. Là, évidemment, il a 30 quelques années. C'est pas si tard, mais pendant 25 ans, il aurait été en prison. Là, tu comprends? Donc, ses meilleures années professionnelles vont être complètement
annihilées. Mais il y a bien des gens ici qui disent « Bravo, les États-Unis prennent au sérieux les crimes économiques alors qu'au Canada, c'est jamais puni. »
Absolument. Mario, je voulais juste apporter un bémol. J'ai pris le temps pendant les fêtes de lire un livre qui est une forme de biographie là, de Michael Lewis, qu'on connaît pour Moneyball, puis plein d'autres très bons livres là, un peu économico, drôles. Et donc, il a fait un livre qui s'appelle « Going Infinite » sur l'histoire de Sam Bankman-Fried. Et dans les dernière page du livre, il accuse en fait ceux qui ont repris la compagnie, M. Ray III, etc., que ce sera finalement eux les vrais criminels. Apparemment, la compagnie qui a fait l'audit de FTX, la compagnie de Sam Bankman-Fried, la compagnie comptable qui faisait les livres, etc., est aussi celle qui fait la faillite et ils auraient perçu quelque chose comme $1 milliard d'honoraires, ce qui est quand même un peu d'argent. Et donc, il y aurait du copinage. Bref, je ne suis pas des complotistes, mais je trouve que la sentence est très élevée. Puis évidemment, le personnage, puisqu'il s'agit d'un personnage, on l'aime ou on le déteste. Hein? C'est à la fois tout ce qui va mal avec les cryptos, mais cette espèce d'idéalisme de la jeunesse, là, des nouvelles affaires.
Histoire à suivre. Merci, Francis.
À demain.
Les vraies questions. Les vraies questions.
Les chicanes fédérales provinciales se poursuivent dans son effeuillage budgétaire. Justin Trudeau a annoncé hier des mesures sur le logement. Aujourd'hui, ce sont les garderies. Il veut mettre sur pied, entre autres, un programme de près d'1 milliard pour créer de nouvelles places abordables. C'est notre premier sujet de conversation avec nos analystes, Mario, Emmanuel et Gaétan, ce soir, qui est avec nous. Bonsoir, vous trois.
Bonsoir.
Alors, le premier ministre Legault, en point de presse hebdomadaire avec les journalistes, a offert une réaction sans équivoque. Extrait.
Je comprends pas, encore une fois, le gouvernement fédéral de venir s'ingérer, de venir se mêler de certains dossiers.
On a toujours reconnu que le Québec a sa façon de faire des choses, particulièrement avec l'annonce aujourd'hui sur des places en garderie.
Gaétan, on reconnaît plein de choses, là, mais c'est encore un empiètement dans les champs de compétences provinciales.
Ben oui, absolument. Alors, il reconnaît que le Québec fait bien les choses, merci, mais il ne reconnaît pas qu'il y a une constitution au Québec qui a stipulé très clairement que dans le cas qui nous occupe ici, c'est de juridiction provinciale, point à la ligne. Alors ici, on a un grand balai préélectoral pour dire aux gens, regardez, on est là pour vous, on va vous envoyer des sous, en pensant que la population va faire fi des enjeux fédéraux-provinciaux.
Ouais, pour dire aux jeunes et aux femmes, notamment, on va voir ça un petit peu plus loin. Mais Mario, les experts, tu en parlais ce matin, hein, qui se sont penchés sur les programmes, confirment notre impression là, que l'ingérence du fédéral est à la mode. On voit le tableau, on l'a vu plus tôt. Là.
Oui, mais en fait, ce que ça dit, c'est que l'ingérence fédérale ou la tentation centralisatrice d'Ottawa part de loin. Les programmes électoraux, à la dernière élection fédérale, les programmes électoraux de deux partis, oui, le Parti libéral qui est au pouvoir, mais le NPD aussi, comportait plus d'engagement dans les juridictions des provinces que dans les juridictions fédérales. Ça paraît un peu absurde, mais donc, t'as des gens qui se présentent pour aller gouverner le Canada, aller gouverner au fédéral, mais quand ils font leur programme, il y a plus d'engagement dans les compétences des provinces. Alors, ça donne une idée d'espèce de mouvement centralisateur et du côté dysfonctionnel du Canada qui se construit, là, des dédoublements de juridictions qui sont érigés en système.
Oui. Tu dis oui, Emmanuel?
Ben oui, parce que à la longue, c'est une chose d'avoir des bras de fer une fois de temps en temps sur des tu sais, un truc comme les bourses du millénaire ou je sais pas quoi, mais là on est rendu dans un contexte où parce que l'électorat est en colère, le gouvernement veut donner l'impression qu'il les aide là, puis la seule façon de le faire, c'est des mesures qui sont proches des gens, qui relèvent des provinces. Moi, je vois une espèce de fuite en avant là-dedans là, de la part d'un gouvernement qui a pas d'autres idées que des idées dont il ne devrait pas s'occuper. Alors que, objectivement, Mario le dit, il y a des enjeux majeurs qui touchent le gouvernement fédéral. Ouais. On n'a qu'à penser à l'état lamentable de nos forces armées, le sous-financement de l'aide internationale, le chaos dans l'immigration, la gestion des frontières, le crime organisé, l'ingérence étrangère. Je veux dire, la liste est sans fin, mais c'est comme si le gouvernement n'a plus d'idées de comment les rendre pertinentes pour l'électorat.
Bon. Une histoire maintenant qui fait grincer des dents, qui a rebondi jusqu'à Québec. C'est le chef péquiste qui a relayé la nouvelle sur ses réseaux. Vous voyez la photo, là, on l'a vu tantôt, des joueurs des Voltigeurs de Drummondville qui affichent des chandails en anglais seulement. Monsieur Saint-Pierre Plamondon a écrit sur ses réseaux, même le CH, qui évolue dans une ligue nord-américaine de portée internationale, n'a jamais osé aller aussi loin dans son manque de considération envers le français. Le ministre responsable de la langue française, M. Roberge, demande à la Ligue de corriger le tir. On l'écoute.
Je vais demander à l'Office québécois de la langue française de faire toutes les vérifications. Mais d'un point de vue des principes, ce qui se passe actuellement, pour moi, n'a pas de sens.
On a entendu, Mario, la réplique de la Ligue. Hein? Les joueurs viennent un peu partout dans le monde. Alors, anglais oblige. Il faut les préparer au circuit professionnel aussi, apparemment.
Je pense que s'ils veulent jouer dans la Ligue nationale, ils vont se débrouiller pour apprendre l'anglais à un moment ou à un autre. Là. Mais c'était comme inacceptable. Je pense aux partisans de ces équipes-là, là, des Saguenayens de Chicoutimi, des Voltigeurs de Drummondville, les gens qui payent les billets, les gens qui font vivre l'équipe, les gens qui vont encourager les joueurs, sont des francophones. C'est une ligue, oui, qui s'est élargie aux provinces de l'Atlantique, puis qu'on leur fasse une place en anglais, je peux le comprendre. Mais tu sais que des joueurs, des équipes québécoises se retrouvent avec des chandails unilingues anglais comme étant les chandails de leur ligue, c'est impensable, en fait. C'est inimaginable qu'on en soit rendu là.
Ouais, un affront aux Québécois, dit le ministre de la Justice, Gaétan.
Oui, oui, absolument, parce qu'on vit dans une ère, aujourd'hui, on a fait une loi récemment, la loi 96, qui traite de l'image française que le Québec veut projeter. Alors, on parle d'un club de hockey là, qui est vu ailleurs, pas juste au Québec. Alors, sur ce point-là, ben oui, c'est un affront, c'est un manque de sensibilité, c'est une erreur, il ne fallait pas la faire. Et ce qui est encore plus pathétique, ce sont les explications qui ont été données par la Ligue. Ça n'a pas de minute de bon sens, là. On est dans l'image. L'image, là, ça n'empêche pas de prendre un petit peu d'anglais pour les joueurs pour qu'ils l'apprennent, c'est correct, mais dans l'image, avec un I majuscule, c'est une méchante gaffe. Là.
C'est la dit pour mettre les choses en perspective. Là, on a vérifié à 3 joueurs sur 4 dans l'équipe qui sont francophones. Oui, mais... Maintenant, Emmanuel, l'OQLF va enquêter tout bon. Et c'est suffisant, il faut aller plus loin.
L'OQLF va enquêter, l'OQLF va donner une amende. Ça va y changer. Je veux dire, c'est culturel, là, cet enjeu-là. Oui. Là, qu'une équipe de l'Atlantique ait un chandail écrit « playoff », je veux bien, mais écoute, du joueur de Drummondville, il est écrit « Gilles Courtois Trophy ». Écoute, ça n'a aucun sens. Je veux dire, c'est complètement... Et c'est comme si la Ligue, mais surtout les dirigeants de cette équipe-là, ont oublié qu'ils représentent des Québécois, ils représentent une culture, ils représentent une nation, ils sont qui est plus grand qu'eux-mêmes là. Il y a comme un réflexe de coloniser là-dedans qui est vraiment comme pathétique.
Ouais. Et après ça, on se surprend qu'à Winnipeg, on chante l'hymne nationale du Canada en anglais et en oui, punjabi. Il n'est pas en français.
Ouais. C'est assez shocking. Au retour, on parle de la loi Françoise David, Québec solidaire, qui veut élargir une protection importante en matière de logement pour les aînés. Restez là.
Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
Une autre nouvelle du règne animalier.
Oui, puis cette fois-ci, c'est des animaux domestiques ou presque, Mario, qui font la manchette en Australie, puis je vais le dire comme ça, là, sème-les-moi sur les réseaux sociaux, Mario, il y a eu ni plus ni moins qu'une levée de bouclier. Je t'explique tout ça, parce qu'un couple, il y a quelques temps, Juliette Wells et Reese Martinson, un couple australien, ont décidé, eux, ben, d'adopter un animal qui venait de secourir, une pie. Un animal, oiseau extrêmement intelligent qui était tombé du nid puis qui ont décidé de recueillir. Ont attendu des heures, ont pas vu ses parents. Décident de prendre la pie chez eux et eux sont déjà propriétaires.
Une pie domestique.
Ben, t'es pas supposé au départ comme ça, mais la nourrice, la guérisse et tout. Et dans la maison, ben, il y a déjà Peggy. Peggy, c'est un chien, un beau chien qui était assez jeune à l'époque, merci, mais qui commence à vivre dans le même environnement que l'oiseau. Et ce qui devait arriver, arriva, Mario. La pie, donc, qui s'appelle Molly dans ce cas-ci, donc Peggy et Molly, sont devenus les meilleurs amis du monde et sont devenus aussi complètement viraux sur l'Internet, Mario. Plus de 700 000 abonnés maintenant sont abonnés à la chaîne qui montre l'aventure. Je vais te montrer des images pour ceux qui regardent à l'écran, ça vaut la peine. Ils jouent ensemble, là. Ils sont des amis, c'est mignon comme tout. Et le chien, au bout de 3 semaines passées avec la pie, s'est mis, parce que c'est une chienne, s'est mise à avoir du lait. Mario, elle a eu ce qu'on appelle une grossesse fantôme. Elle n'est pas enceinte, mais elle produit du lait parce qu'elle considère que la pie, c'est son bébé. Et là, ben, meilleurs amis du monde jouent ensemble, ont toutes sortes d'aventures retransmises sur le web, mais ce qui devait arriver arriva. Les autorités du ministère de l'Environnement australien se sont mis là-dedans en disant c'est une pie sauvage, vous ne pouvez pas avoir ça chez vous. Il va falloir que vous...
Il n'y a pas juste au Québec. Il n'y a pas juste chez nous que les gouvernements ont manque d'ouvrage puis ils s'occupent de tout. Là.
Ben voilà, puis on dit, ben là, il va falloir la remettre dans la nature. Et là, ben le couple, on lance un appel sur les réseaux sociaux. Levez de bouclier, Mario. Les Australiens ont dit, ça se peut pas, vous n'allez pas séparer ce beau duo-là de beaux animaux. Et ça a été entendu par le premier ministre de la province du Queensland, dans laquelle il se trouve, qui est intervenu personnellement, le premier ministre, pour dire non.
Donc, le premier ministre a dû se mêler d'une histoire d'une pie puis d'un chien.
Ben finalement, c'est ce qui se passe. Le ministère de l'Environnement donne une formation de responsabilité de la faune aux deux adultes qui vont maintenant pouvoir conserver la pie. Donc Peggy et Molly ne seront pas séparés.
La dernière histoire de pie que j'avais entendue, c'était les bijoux de la Castafiore.
Hey, moi aussi.
Merci.
Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération.
Parlons maintenant de ce projet de loi de QS pour mieux protéger les aînés contre les évictions de logements. Ça a été débattu à l'Assemblée nationale. La loi Françoise David, comme on l'appelle, hein, qui empêche un propriétaire d'évincer un locataire de 70 ans ou plus qui habite dans un logement depuis au moins 10 ans. QS qui veut que la loi soit étendue aux aînés de 65 ans et plus. Alors, Mario, il n'y aura pas de journée historique, là, comme l'espérait Gabriel Nadeau-Dubois. C'est un peu fini en queue de poisson, non?
Oui, mais la CAQ qui ne veut pas embarquer là-dedans, sincèrement, tu sais, il y a un fondement. Là, mais là, on veut l'élargir quand même à plus de monde, parce que si on réduit l'âge à 65 ans et on réduit la période de 10 ans que tu habites à la même place, 5 ans serait suffisant pour ne plus pouvoir être évincé. Québec solidaire, écoute, fait tout un travail à défendre les droits des locataires, marque beaucoup de points politiques. Ce qu'on oublie peut-être, c'est que à défendre les droits des locataires, on met des règles de plus en plus contraignantes pour les propriétaires. Or, on manque de logements. Fait que si peu personne veut être propriétaire, si les propriétaires veulent transformer leur logement en condo, il y a un danger à force de restreindre les règles. Tout le monde va se dire, je peux plus rénover mes logements, je peux plus aller chercher des loyers. Et ça, c'est peut-être l'équilibre qu'on perd. On manque de logements, mais ce qu'on veut, c'est des propriétaires qui en construisent
des
plus.
Personnes âgées, je suis pas certain que ça. Minimum, là, c'est pas la classe moyenne qui est visée, là. C'est des vieux qui sont pauvres, là.
Garde, moi, je dis la chose suivante. Il fut un temps où les propriétaires étaient contents d'avoir une personne plus âgée parce qu'ils faisaient attention à leur appartement et ils payaient. Alors, c'était un avantage d'avoir ce type de clientèle-là, comme on essayait d'acheter la personne âgée qui vendait son auto. L'auto est en bon état. Non, mais ça a été comme ça au Québec. Alors, aujourd'hui, on vit de l'autre côté, on vit dans une ère d'éviction. Et il me semble que les gens qu'on doit protéger, c'est ça un vrai débat de société, ce sont ces gens-là. Je comprends l'argument de Mario et je suis d'accord en partie, mais on ne peut pas le prendre hors contexte. Mmh. Et le contexte, c'est qu'on a des personnes âgées qui se font éviter de leur logement. Puis là, c'est à ça que ça sert les lois. Là.
Maintenant, vous avez remarqué l'irritation du chef péquiste quand on nomme la loi avec le nom Françoise David? On écoute un extrait.
Que vous allez faire front commun avec Québec solidaire pour forcer la main au gouvernement du Québec sur la loi Françoise David.
Quel numéro de loi? C'est la... c'est la loi 198.
Ça dit quoi, Emmanuel?
Ben, c'était pas nécessaire. Mm-hmm. T'es pas obligé de... Tu sais, je comprends qu'il y a une joute parlementaire, puis que c'est très compétitif, puis qu'il y a de la rancune, puis de l'animosité entre les partis, pour plein de raisons, dans les jeux de coulisses de « ils ont fait, que j'ai dit, que whatever ». Mais tu sais... Des fois, un minimum de générosité, là. C'est la loi Françoise David. Tu sais, si on était ici en train de débattre au panel de la loi 178, là, Sophie, il n'y a pas un auditeur qui saurait de quoi on parle. Donc, à un moment donné, de donner ça, là, c'est pas un cadeau à QS, là. C'est un cadeau à Françoise David puis le combat qu'elle a mené. Sais-tu quoi? Elle a réussi à la faire adopter, sa loi.
Ouais, puis je vais aller plus loin que ça. Moi, j'étais là pour ce vote-là, puis on l'appelait, nous autres, au Parti libéral à l'époque, la loi Françoise David.
Ouais, bon, voilà. Un dernier sujet qui passionne beaucoup de monde, dont nos trois analystes, les fichus écrans dans la vie de nos jeunes. Hein? On apprend que les plus grands conseils scolaires d'Ontario poursuivent Meta, Snapchat, TikTok, 4 milliards dommages intérêts pour perturbation de l'apprentissage des élèves et du système éducatif. Là, les commissions scolaires qui les accusent d'avoir conçu par négligence des produits pour une utilisation compulsive qui ont modifié le comportement des enfants. Pensez quoi de cette poursuite-là? Manuel, vas-y donc, on sait que
t'es un peu obsédé là-dedans, du sujet. Puis je suis pas garante de si ça va marcher ou pas, mais c'est qu'ils attaquent les réseaux sociaux sur le seul truc où la science est formelle. Tu sais, on parle de l'impact sur le cerveau de nos jeunes, l'apprentissage. Les études commencent à sortir. Il n'y a pas de preuves béton là-dessus. Mais il y a des preuves claires sur le fait que les algorithmes sont faits pour créer une addiction, particulièrement chez les jeunes. Et on le sait pourquoi? À cause des délateurs et des dénonciateurs de chez Facebook, de chez Meta, qui ont témoigné en congrès pendant des semaines et qui ont tout mis ça sur la place publique. Donc, ils essaient de prendre les médias sociaux par le côté où ils sont les plus vulnérables.
Gaëtan?
Bien, comme Emmanuel vient d'y faire allusion, il y a une science qui est en train de se développer et on parle de conséquences qui existent depuis plusieurs années à une époque où on n'avait pas cette science-là. Alors, je dis, il y a un débat à faire dans la société, mais bonne chance pour la poursuite parce que ces grandes compagnies-là vont engager une armée d'avocats pour débattre de ça. Ils vont dire aux commissions scolaires, vous avez fait quoi, vous autres, pendant ce temps-là? Les parents, vous avez fait quoi? À la cour, c'est une question de déterminer s'il y a une cause et un effet. Est-ce qu'ils sont responsables de ça? D'abord, ça va prendre 20 ans à régler jusqu'à la Cour suprême.
Non, mais ça force le débat, au moins.
Oui, tout à fait. Je suis d'accord de le faire. Mais est-ce que la poursuite va donner quelque chose autre que de faire un débat? Je pense que non.
Oui, Mario? Dernier mot là-dessus?
Oui. Bien, moi, je pense que les gouvernements, présentement, d'un peu partout... Hier, on parlait de la Floride, là, qui veut carrément l'interdire aux 14 ans
ça,
et moins. On disait c'est pas tellement applicable. Là, t'as un procès des conseils scolaires en Ontario. Je pense qu'un peu partout, les sociétés, leurs gouvernements qui les représentent, s'inquiètent de l'effet des réseaux sociaux et des écrans sur les jeunes, cherchent comment, un peu à tâtons, comment on va s'attaquer à ce problème-là, comment on va encadrer ça. On ne pourra pas complètement le faire disparaître, mais il va falloir mieux protéger les jeunes. C'est une évidence. Et tout le monde cherche le comment. Puis je pense que, tu sais, le juridique, le politique, le scientifique, il y a rien qu'on doit mettre de côté. Là, sur tous les fronts, on doit travailler ça. Et aujourd'hui, encore, Paul Saint-Pierre Plamondon l'a ramené à l'Assemblée nationale, une intervention vraiment très pointue, très pertinente aussi, et qui correspond, je pense, aux questions que beaucoup de gens, là, beaucoup de parents se posent dans les chaumières. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on encadre ça? Qu'est-ce qu'on fait avec la dépendance que ça semble créer chez, chez nos jeunes?
Nous-mêmes, on se le dit, des fois, dans des soupers bien arrosés. Il me semble que le cerveau m'a changé depuis les écrans. Imaginez les jeunes. Dossier majeur, en tout cas, là-dessus, à voir agir demain. Merci beaucoup.
Au revoir.
Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout tout en débattant des enjeux de société.
Beaucoup d'enjeux qui sont liés au marché du travail. On va en parler tout de suite avec le ministre du Travail, Jean Boulet. Monsieur Boulet, bonjour.
Oui, bonjour, M. Dumont. Comment allez-vous?
Très bien. Ce matin, à l'Assemblée nationale, un débat quand même intéressant qui vous a été amené sur est-ce que le gouvernement, dans sa façon d'octroyer les contrats, devrait forcer les employeurs de la construction à intégrer plus de femmes en donnant des contrats à des entreprises qui amènent des femmes sur le chantier. Bon, vous avez laissé la porte ouverte. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est pensable?
Ben, c'est ce qu'on est en train d'analyser, M. Dumont. Hein? Puis, c'est certain qu'il faut prioriser l'intégration des femmes dans l'industrie de la construction. On a des besoins énormes, vous le savez, dans les missions essentielles de l'État, c'est les logements, les projets industriels, les infrastructures, les écoles, les hôpitaux. Fait que oui, on a déjà en place un programme d'accès à l'égalité pour les femmes. On a triplé le nombre de femmes dans les dernières années. On est rendu qu'à 3,8, mais dans certains métiers, charpenterie, menuiserie, ferblanterie, électricité, peinture, il y a beaucoup plus de femmes qu'avant. Maintenant, imposer des quotas, moi, je pense que c'est un des moyens, mais il faut voir la faisabilité, ben, la compatibilité avec des accords de libre-échange aussi là, en matière internationale. Il faut s'assurer d'aller de l'avant, mais on respecte le même objectif.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, vous le dites, les femmes prennent plus de place dans la construction, mais ça reste des petits nombres. Je comprends que les municipalités, je comprends que les centres de services scolaires, quand ils veulent faire des travaux, rénovation, construction, des fois, là, ces années-ci, il y a tellement peu d'entreprises, il y a tellement d'ouvrages qu'on a peu de soumissionnaires. Est-ce qu'il n'y a pas un danger de dire, mais là, l'entreprise qui n'a pas de femmes dans sa main-d'œuvre pourra plus soumissionner, dans certains cas, d'avoir encore moins de soumissionnaires ou plus du tout de soumissionnaires et d'être pas plus avancé?
Vous avez totalement raison. Ça pourrait avoir cet effet pervers-là de diminuer le nombre de soumissionnaires qui ne sont pas capables de respecter des quotas. Donc, évidemment, c'est une formule qui est éclatante. Ceci dit, on a le même objectif d'intégrer plus de femmes, mais il faut le faire de manière raisonnée puis compatible avec les accords, avec nos lois. Oui.
Dans vos cours, là, les cours accélérés que le gouvernement a annoncés où les gens sont payés pour pendant qu'ils étudient là, les métiers de la construction, est-ce qu'il y a des femmes, est-ce qu'il y a par exemple un pourcentage plus intéressant de femmes qui se sont inscrites?
C'est fascinant, M. Dumont. Je suis allé dans beaucoup de centres de formation professionnelle. Cet après-midi, j'étais à l'École des métiers et des occupations de la construction à Québec. C'est l'école, la deuxième ou la plus importante au Québec. Puis il y a des femmes en ferblanterie. On a accru la capacité d'accueil en électricité. Il y a beaucoup de femmes. Il y a une cohorte qui est partie ici à Trois-Rivières. Il y a 11 filles puis 11 gars. Donc, on sent que la formation, c'est une porte ouverte, c'est une nouvelle avenue pour intégrer des femmes. Je le vois dans tous les parcours. Puis en charpenterie, menuiserie, il y en a beaucoup. Et à l'école de métier à laquelle je réfère, où j'étais cet après-midi, il y a 13 % de filles. Donc, on a triplé le nombre de femmes dans les trois dernières années. Il faut continuer d'aller de l'avant puis intégrer aussi des membres issus de la diversité au Québec, là.
Ouais. Aujourd'hui, vous avez fait une annonce là, justement là, en lien avec ces gens qui sont en train d'être formés, qui sont payés pour être formés en accéléré parce qu'on a besoin de main-d'œuvre pour leur accès au marché du travail, pour le passage entre leurs études et le marché du travail. Il y a des gens qui vous ont reproché de pas avoir mis un mécanisme qui les oblige, de dire si tu t'inscris au cours, si on te paye pour suivre le cours, t'es obligé d'aller travailler. Qu'est-ce que vous leur répondez? Il y a des gens qui pensent que vous auriez dû mettre une espèce d'obligation, sinon ils remboursent leurs cours ou sont punis d'une manière?
Ça aurait été complètement inefficace au plan administratif. L'industrie de la construction, il y a beaucoup de chantiers. On passe d'un employeur à un autre. Ça n'aurait pas été facile de mettre ça en application. Contrairement au PAB, où il y a un employeur unique, là, ici, on fait affaire avec plusieurs entrepreneurs différents. Ce qui est important, puisque j'ai annoncé cet après-midi, c'est un maillage, un accompagnement des étudiants et étudiantes avec la CCQ pour obtenir leur certificat compétences apprentis, les démêler dans le parcours parfois compliqué pour travailler en construction. L'OCQ, la PCHQ, toutes les associations d'employeurs vont collaborer avec les centres de formation professionnelle. Il va y avoir des visites, Il y a déjà beaucoup d'étudiants et étudiantes qui ont des offres d'emploi qu'ils ont d'ailleurs déjà acceptées. Moi, je pense que ça va avoir des retombées favorables. C'est un projet pilote. On va évaluer les retombées. Mais moi, je pense que ça passe par l'accompagnement puis des mesures concrètes pour permettre à ces personnes-là de venir travailler dans ce secteur-là.
Êtes-vous confiant qu'ils vont se retrouver sur les chantiers, ces gens formés? Parce qu'on a tout entendu, là, des exemples. Ça a l'air qu'il y en a qui faisaient ce cours-là pour aller, t'sais, pour avoir la compétence pour mieux rénover leur sous-sol, pour rénover leur propre Airbnb, qui n'ont pas partout l'intention d'aller travailler dans l'industrie. Êtes-vous confiant que ça va amener que ces gens-là, massivement, vont rentrer dans l'industrie?
Ben, l'objectif, c'est qu'ils intègrent l'industrie de la construction et l'incitatif financier provient de fonds publics. Si tu vas là en utilisant des fonds publics à des fins personnelles, il y a un problème sérieux. Ces personnes-là n'ont pas d'affaires.
Si vous l'encadrez pas, vous l'interdisez pas, ils en profitent?
Oui, on va les encadrer. Les fédérations de centres de services scolaires travaillent avec les associations patronales. Les entrepreneurs vont se déplacer sur place et on va avoir un accompagnement personnalisé qui va permettre à ces personnes-là de travailler dans l'industrie de la construction. Est-ce qu'il y a des cas qui peuvent nous échapper? Je suis pas naïf complètement. Il y en a peut-être, mais c'est pas le but. Puis on va s'assurer d'éviter et de permettre à la vaste majorité, sinon la totalité, de travailler. Le DG de la CQ à Québec, il me disait aujourd'hui, Monsieur le ministre, 100%, ils ont déjà des offres d'emploi. On a des besoins énormes. L'attestation d'études professionnelles, ça permet d'acquérir des compétences essentielles et moi, j'anticipe d'ailleurs que le taux de rétention va être nettement supérieur que les personnes qui intègrent la construction par la voie des bassins, c'est-à-dire sans formation.
Monsieur le ministre, je recevais plus tôt ici à Cube le porte-parole de l'Institut économique de Montréal qui est allé d'une étude sur l'industrie de la construction, le cloisonnement des métiers et en même temps sur votre projet de loi pour décloisonner. Et il dit, le ministre fait un pas dans la bonne direction, mais un petit pas, là, un pas de souris. L'Institut économique de Montréal dit, il faudrait aider. Les autres provinces ont entre 7 et 10 métiers. Au Québec, on en a 25. Il faudra en couper au moins la moitié, simplifier ça, permettre aux gens d'avoir des formations plus générales, de travailler dans plus de secteurs. Pour l'efficacité. D'abord, ils vont un peu dans le même sens que vous, mais ils disent qu'il faut aller beaucoup plus loin. Qu'est-ce que vous leur répondez? Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez faire?
Bien, c'est un équilibre. Il ne faut pas non plus permettre une polyvalence qui devient un bar au vin, puis que là, que la qualité des travaux de construction soit affectée, ou que ce soit incompatible avec les compétences des travailleurs, ou que ça provoque des accidents de travail. Donc, le scénario de polyvalence qui est dans le projet de loi 51, nous permettrait, selon APECO, une étude commandée par l'Association de la construction du Québec, de sauver 10 % des heures travaillées. Si on se place en 2022, où il y a 210 millions d'heures qui ont été travaillées dans le secteur de la construction, c'est 21 millions d'heures qu'on sauve, qui nous permettrait de construire 25 ou 26 écoles primaires, selon des économistes. Donc, la polyvalence, oui, il faut faire un grand pas. C'est pas terminé, mais la polyvalence, faut pas non plus que ça épeure les travailleurs. Et aussi, les Québécois, Québécoises, il faut quand même avoir une certaine assurance que les travaux vont être bien faits. Mais c'est un grand pas en avant. Je pense que c'est une nouvelle culture qui va se développer. Et moi, je compte sur ce pilier-là de polyvalence. Évidemment, il y a la mobilité puis l'accès, l'inclusion. Mais la polyvalence, c'est un élément central de ce projet de loi-là. Et moi, je suis fermement convaincu que ça va nous permettre de faire des gains. Pensez au délai qu'on sauve. Parce qu'on attend, on n'a pas un carreleur, on n'a pas un cimentier applicateur, on n'a pas un peintre. On va sauver des délais énormes. L'exemple de la porte, il est concret. La Corporation des entrepreneurs généraux du Québec est venue au Parlement en consultation particulière. Et il y a un entrepreneur qui l'a vécu. 7 métiers pour changer une porte dans une école.
Ouais, c'est l'exemple, c'est l'exemple qui est devenu le classique, là, effectivement.
Oui, mais monsieur... c'était vécu.
Ouais. Hey, monsieur le ministre, je veux vous entendre. Vous qui voulez recruter des travailleurs aînés, là, vite, vite, vous pensez quoi de la publicité avec Ron Fournier de Rona ce matin, qui veut recruter des travailleurs aînés? Comme Ron, là, on sort de la retraite?
Ben, moi, je me plaisais à répéter que si on avait le même taux d'emploi chez les 60-69 ans qu'en Ontario, on pourrait ramener au travail 60, 70 000 personnes. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, c'est des personnes qui ont de la maturité, ils ont de l'expérience, il s'agit de bien les accommoder. Il y en a qui veulent travailler à temps partiel, il y en a qui veulent travailler de manière temporaire, mais ils répondraient à des besoins qui sont tellement importants pour beaucoup d'entreprises au Québec.
C'est le défi des employeurs de les accommoder. Monsieur le ministre, merci d'avoir été là. Au revoir.
Merci. Merci, Mario. À bientôt. Au revoir.
Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure.
Jean-François, le Canadien joue contre les Flyers ce soir. Retour au Centre Bell, ça c'est jamais bon, les retours à la maison après les longs voyages.
C'est un match piège. De un, on revient à la maison. La pression retombe aussi. Ça a été un long périple sur la route. Là, Martin Saint-Louis, l'émotion de Martin Saint-Louis qui revient, c'est fini. On s'est battu contre l'Avalanche du Colorado. Tout le monde y a mis son cœur, son âme, puis envoie le don. Et là, ce soir, c'est juste les Flyers. Alors, je trouve que c'est le piège parfait pour le Canadien. Tous les ingrédients sont là pour qu'on tombe dedans. Surtout que les Flyers, eux autres, se battent pour une place en série. Là. Fait que c'est sûr qu'eux autres, ils vont sortir comme des enragés. Deux, trois points de moins, puis ils font pas les séries. Ouais. Fait que l'enjeu est pas le même pour les deux équipes, mettons.
Formation du Canadien?
Ben, c'est Primo devant le filet. Je pense que c'est de bonne guerre, c'est Montembeau, parce que je trouve que la Ligue fait drôlement les choses des fois. Ils ont quand même joué mardi soir au Colorado, ils ont voyagé de
avec
nuit.
Avec le décalage horaire, ouais.
Ils sont arrivés hier matin ici, tu sais, fait que tu sais, tu dors dans l'avion, tu dors un peu le jour. Fait que Primo qui a eu une soirée de congé, je pense que c'est une bonne idée de le retourner là et de donner le match de samedi au Centre Bell, un classique à Samuel Montembeau. Donc Primo devant le filet. Écoute, Pearson va encore regarder ça des gradins. J'ai comme l'impression que lui, sa carrière est terminée. Kovacevic des gradins. Aussi. Et je sais que tu vas être excité si je te dis que Christian Dvorak a patiné aujourd'hui, habillé full contact. Là. On pourrait
c'est qui ça? C'est qui lui?
Ça, c'est le gars qu'on est allé chercher.
On parle-tu toujours de hockey ou c'est un autre sport là, que tu viens de transitionner vers un autre?
Tu sais, quand Dano est parti, on a paniqué.
Ça prenait un gars pour les mises au jeu. Ouais, ça me dit de quoi, là? Ça me revient.
Première ronde pour aller chercher Christian Dvorak. Et là, on est pogné avec son salaire. Puis un gars qui est tout le temps blessé.
Il y a des séries là dans l'Est quand même qu'il faut surveiller. Des luttes, en fait, pour les séries.
Ben, les Flyers vont le regarder parce que, évidemment, là, sont sixième, mais dans les faits, sont septième parce que, à cause des points, là, puis des divisions, sont septième. Donc, ils se battent avec les Islanders qui jouent contre les Panthers ce soir. Donc, s'il y en a qui prennent pour Patrick Roy. Washington est en série présentement avec une poussée d'Ovechkin, joue contre les Leafs et Détroit qui se bat avec tout ce beau monde-là contre la Caroline pour les amateurs de hockey.
Il y a du trafic, là, pour les deux dernières places, là, présentement dans l'Est. Chaque match est crucial. Merci, Jean-François.
Salut, Mario.
Bye bye. À demain. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain.